Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Bon, hier, on parlait de la priorité accordée à certains métiers pour avoir accès à la vaccination. Puis là, on se disait, là, on a reçu un appel. Il faudrait peut-être penser aux camionneurs. Il y a Steve Marcellet qui est camionneur, qui est présentement au volant. Steve, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Bonjour. Ah, Benoît Stamas. Là, vous êtes où exactement, là?
Là, je me dirige vers Laval. Je suis à peu près à Terrebonne.
OK. Puis
je m'en vais faire un petit tour dans l'ouest de Montréal. Après ça, on s'en va à Gatineau.
OK. Ça va être plus simple d'aller à Gatineau que de venir à Montréal, j'imagine.
Ça risque de prendre moins de temps.
C'est toujours pareil. Dis donc, on se posait la question, là, vous, les camionneurs, est-ce que vous êtes en priorité pour la vaccination?
Ben, c'est bizarre parce que je me posais la même question. J'ai pas l'impression parce que ça doit dépendre de la tranche d'âge, j'imagine, là, parce que on a parlé des travailleurs essentiels. Ensuite, on a recoupé tout ça avec les travailleurs de la santé et les enseignants. Puis, travailleurs essentiels, je dirais que ça a été réduit pas mal, là, le spectre. Là.
Ouais, parce que...
Depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, là, ça a été réduit, je dirais. Là.
Lors de la première vague, Steve, là, les camionneurs, là, vous étiez célébrés, on vous aimait, vous nous apportiez la nourriture, le papier cul, on vous aimait à mort. Là, est-ce que ça a changé avec la deuxième vague, avec l'usure du temps, là?
Ben, ça doit être un peu pareil avec tous les corps de métier. Là, je me rappelle des récriminations un peu des, entre guillemets, anges gardiens qui disaient que ça, c'était juste dans les médias qu'on disait ça comme ça.
Ouais.
Écoutez, si je me fie aux premières semaines là, de la première vague, là, on était pas mal persona non grata un peu partout. Là. C'était dur même juste de pouvoir aller aux toilettes dans une station-service. Là. Les toilettes de station-service étaient toutes, en guillemets, hors-service, là, si on veut.
Ouais.
Mais ça devait être probablement pour les réserver aux employés, là, mais non, je dirais en ce qu'on entendait là, au début de la première vague dans les radios, dans le journal puis à la télé, là, c'est pas ce qu'on vivait nous autres sur le terrain. Là.
Parce que là, faut réaliser, Steve, que les camionneurs, là, il y en a dans toutes les régions qui traversent l'Amérique du Nord, là, que ce soit au Québec, au Canada, les maritimes, je veux dire, ils viennent de partout. Comment ça se passe dans les haltes routières?
Ben écoutez, tout le monde, peu importe d'où on vient, là, on se ramasse tout là. Bon, il y a des petits restaurants, on va aux toilettes, on en va aux dépanneurs, un petit Tim Hortons en passant. Puis écoutez, tout le monde se croise là. Oui, ils ont des masques. Je dirais que le 2 mètres, là, c'est relatif. Ben c'est ça. Dans le fond, on touche toutes les mêmes affaires. On se ramasse tous aux mêmes endroits. Puis ça, c'est sans compter les centres de distribution. Là, il y en a qui ont comme 200 portes là pour les camionneurs. Donc ça fait du camion au pied carré. Là. Puis tout ce beau monde-là s'en va tous dans des régions différentes après. Là.
Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour les camionneurs?
Il y a certains endroits où, dans le bureau, là où on va chercher nos factures et compagnie, là, on a juste le droit d'être une personne à la fois. Ça aussi, je dirais que c'est relatif. C'est pas toujours respecté. Ça, c'est sans compter des gens qui parlent pas la langue, fait qu'ils prennent même pas la peine de lire les consignes. Ils comprennent pas, là. Il y en a là, que c'est simplement en anglais. Il y a beaucoup de camionneurs là, qui ouais. Font de l'Ontario, qui font de l'Ouest canadien ou même des États-Unis, qui viennent pas nécessairement d'ici. Fait qu'ils parlent zéro français. Puis il y a beaucoup d'endroits où que les affiches sont seulement en français. Fait que, ouais.
Est-ce qu'il y a des camionneurs qui ont des... Je veux pas commencer une job de délation, puis commencer à rapporter, puis dire, lui, il fait ci, lui, il fait ça, là, ça me tape ses nerfs, ça, mais est-ce qu'il y a des comportements à risque aussi, là? Est-ce qu'il y en a qui... parce qu'il y a de tous les genres dans tous les métiers, aussi, dont ouais. les camionneurs. Est-ce qu'il y en a qui ont des comportements à risque qui vous font sourciller?
Ben, écoutez, ça, c'est un peu pareil partout. Hein. Comme je disais, le 2 mètres est très, très élastique là, dans les deux sens. Mais il y a aussi le masque là, qui est porté à moitié là, en dessous du nez, puis tout ça. C'est un peu pareil partout. Là. J'ai deux filles qui travaillent dans des épiceries, puis ils sont confrontés pas mal aux mêmes choses que moi à tous les jours.
Ah oui?
Fait que, c'est pareil partout. Là. Des camionneurs, c'est comme d'autres métiers. Il y en a qui mettent mal leur masque. Il y en a qui restent pas assez loin. Il y en a qui désinfectent à moitié les mains. Le Purel, c'est en option, là, je dirais.
Puis ça, pour la contagion, c'est parfait. Avez-vous croisé des camionneurs qui étaient atteints? Parce que vous, là, vous pognez à COVID, vous n'êtes pas payé, là, vous rentrez chez vous.
Ben, de un, je suis pas payé. De deux, moi, je suis proche aidant pour ma mère. Donc, ça fait quasiment un an que je peux à peu près plus aller chez elle. Elle reste juste au-dessus de chez moi dans mon duplex, mais je peux pas aller chez elle comme telle. Je passe ma journée à rencontrer du monde qui vient d'un peu partout. Fait que je vais pas chez eux, mais on désinfecte tous ces trucs avant d'y amener chez elle, comme son épicerie et tout, mais... C'est un petit peu plus de troubles, je dirais. Là,
qu'est-ce que vous aimeriez voir, là, peut-être, le gouvernement du Québec a annoncé des mesures? Parce que on dit que les doses rentrent, là, mais aimeriez-vous voir, Steve, un appel aux camionneurs à aller se faire vacciner?
Ben, c'est sûr que j'irais un peu dans le même sens que ce qui est fait présentement là au Québec. Là. Peut-être y aller par tranche d'âge. Évidemment, camionneur ou un autre métier, quand on a plus de 70 ans ou plus de 60 ans, on est un petit peu plus à risque que moi qui en a 39. Sauf qu'à un moment donné, comme je disais, c'est pour la propagation qui est le problème. Fait que oui, peut-être que je mettrais le fameux vaccin à 67% ou quelque chose comme ça. Là.
Ouais.
Je le prendrais, moi. Plutôt que rien, là, plutôt que d'attendre au mois de juillet ou avant d'être vacciné, puis de pouvoir arrêter de stresser autant quand j'ai affaire à m'occuper des choses à ma mère ou ne serait-ce que juste revenir chez nous avec mes deux filles puis ma femme là, qui peuvent être à risque aussi. Là.
Est-ce que les camionneurs se croisent à ce point-là? Parce que vous m'avez dit, tu sais, bon, il y a un peu moins de distanciation là, quand vous arrêtez à des haltes routières, mais est-ce qu'il y a des rassemblements? Est-ce qu'il y a une culture aussi contre le masque. Tu sais, il y en a dans certains métiers. Là. Est-ce que vous avez croisé ça, vous?
Pas particulièrement, non. Je dirais que rendu là, de la façon qu'ils le mettent, c'est pas toujours mieux. Là. Mais ils le mettent au moins. Là. On va toujours bien mettre ça. Là. Mais non, mais de toute façon, il y a bien des endroits où ils n'ont pas le choix. Là. Ils mettent le masque ou ils ne rentrent pas. Fait que ça, c'est toujours bien ça. Mais non, il n'y a pas de culture anti-masque comme telle. Puis des rassemblements, je veux dire, à tous les endroits là où il y a plusieurs camionneurs qui vont se ramasser, ben à un moment donné, il y en a 3-4 qui vont se mettre à quelque part, ils vont jaser. Comme je disais, le 2 mètres, c'est assez optionnel, merci. Là.
Mais il y a du Purel, les compagnies font attention.
Oui, il y en a. Vous n'avez pas dit qu'il est utilisé, mais il y en a.
C'est optionnel. OK. Je lisais ce matin, je savais qu'on allait se parler, Steve, mais je lisais ce matin un autre camionneur qui disait là, avec le. Tu sais, au début de la pandémie, ça allait bien, mais là, les gens sont crinqués sur la route, les gens sont à bout. Oui. C'est-tu vrai, ça?
Ah oui, écoutez, avant, là, il y avait un certain pourcentage là, qui conduisait, on va dire, il était plus pressé que tout le monde. Là, je dirais et c'est surprenant parce qu'il y a tellement de monde qui travaille en télétravail ou qui sont, tu sais, bref, qui ont moins d'ouvrage. Je comprends pas pourquoi le monde est aussi pressé. Mais là, ça va de la personne âgée à la petite minivan avec des enfants dedans. Ça fly, là. Ça nous coupe ça à deux pieds du bumper en avant parce que, coudonc, on est lent. Hein? Fait que on les retarde dans leur journée. Fait que j'ai vu des affaires que je voyais pas avant. Là. Des gens qui conduisent vraiment vite, qui vont couper malgré les tempêtes de neige et tout.
Et ça, c'est récent, là. Vous voyez un changement dans le comportement des automobilistes, entre autres au Québec.
Oui, ben dans le nombre, en tout cas.
Ah oui, en fonction de ça. Puis vous devez rester calme parce que vous avez un 10 roues, je sais pas combien de roues, mais vous pouvez, c'est dangereux cette affaire-là, donc vous devez rester calme. Là. Vous pouvez pas pogner les nerfs après le monde.
Ben non, écoutez, moi je pèse 100 livres là, au total. Là. Je peux pas 100 000 livres au total. Ouais. Ben, je peux pas aller commencer à vouloir couper quelqu'un par vengeance ou ne serait-ce que pour l'empêcher de me couper ou quelque chose. J'ai pas le choix de garder mon calme. On peut serrer le volant, lâcher 2-3 mots d'église, mais Mais commencer à espérer s'énerver, là, ça serait un peu débile.
Oui, ben donc, il faut faire un appel au calme sur la route aussi. Là, on est rendu là, là.
Un appel au calme, puis il faut rappeler le nombre d'angles morts qu'il y a sur un camion, hein, parce que se faire coller autant là, sur les côtés que dans les angles morts, ils viennent se mettre, parce qu'on a toujours un espace devant nous là, pour se laisser le temps de freiner. Mais c'est pas écrit nulle part, ça, que c'est un espace pour freiner. Fait que les gens, ben ils viennent se mettre là.
Bon, ben écoutez, lâchez pas, puis faites attention. Continuez, je pense, vous suivez les consignes, là, puis ça, c'est important de le dire, parce que, tu sais, on peut avoir toutes sortes de préjugés envers les camionneurs, puis il y a des fois, faut avoir une partie de la vérité, en tout cas la vôtre, Steve, et j'apprécie qu'on se soit parlé ce matin, puis j'espère que vous allez avoir accès au vaccin, mais entre-temps, ben soyons tous prudents, on n'a pas le choix, hein?
Absolument. Puis juste mentionnant en terminant qu'il y a beaucoup de camionneurs maintenant avec probablement le vieillissement de la population. Là. Il y a de plus en plus de camionneurs qui sont en jeune âge. Là. J'en croise régulièrement dans la vingtaine. Là. Donc c'est plus ce que c'était avant, là, les camionneurs. Là.
Parfait. Mais Steve Marcellet, camionneur, merci. À la prochaine.
Merci à vous.
Salut.
Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Autre. Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trisac.
Geneviève Peterson est avec nous parce qu'elle va être avec vous à 13h. C'est ça la formule désormais.
J'adore ça.
Comme ça, je te présente à chaque fois.
C'est un mal nécessaire. Je suis là parce pas que je vais être là.
Tu sais, un mal nécessaire, plaisir coupable. C'est tout comme coudon. Si on dérange, on va rester
chez. Il dit ça au début de ton émission, un plaisir. Je suis pas d'accord. Coupable, c'est quoi? C'est plaisir coupable, c'est quand je mange une boîte de Joe Louis puis un sac de chips après.
Les effets sont négatifs.
Ben, plaisir coupable. Je suis pas gênée de t'écouter. C'est comme si c'était gênant. Ben plaisir oui, coupable, c'est le Doc Mayou, mettons.
Bon.
Tu sais, t'écoutes le Doc Mayou, tu te sens un peu sale, mais t'es diverti.
Ben oui, non, mais écoute, tu veux, moi je m'en occupe pas, mais là, le plaisir coupable.
Écoute, moi je suis la déesse de l'information, fait qu'écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Dis-moi que t'es la déesse de quelque chose.
C'est ça.
Je pense que c'est ça.
Moi, c'est tout ce qui compte.
Hein, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qu'on retient, là, de toute façon.
Exactement.
Qu'est-ce que ça change?
Rien.
Hey, là, j'ai parlé à Geneviève Landry, ouais. Là, qui s'occupe des hommes violents. Tantôt, tu reçois la ministre Isabelle Charest. J'espère qu'elle va être plus volubile que dans son article, dans son entrevue au Journal de Montréal.
Ben, je l'espère aussi, parce que moi, je la questionnais vendredi passé, parce que là, écoute, les homicides conjugaux, c'est préoccupant. À longueur d'année, le Devoir qui fait une vigie là-dessus recensait 8 homicides conjugaux au Québec en 2020, ce qui est quand même énorme. Mais là, en un mois, en 40 jours, là, on a eu 6 femmes qui sont décédées. 5 février, Elisapie Angman dans le nord du Québec. 21 février, Marie-Édouard. 23 février, Nancy Roy. Puis là, on a ce qui s'est passé à Sainte-Sophie. 5?
5.
Bon, ce qui s'est passé à Sainte-Sophie lundi soir, cette jeune femme de 28 ans puis sa belle-mère, là, hier, on se posait tous la question parce que ça sentait la violence conjugale.
Non, mais
évidemment,
attends, à la toujours... hache?
Ben oui, oui.
Non, mais faut le dire, là, parce qu'il faut arrêter de tempérer ces événements-là.
Non, ce sont des meurtres, ce sont des féminicides, c'est excessivement violent. Ben oui, puis...
À la hache.
Puis ce qui est fou, c'est que souvent, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens quand je parle à des gens comme Manon Monastès, c'est que ce sont des événements qui auraient possiblement pu être évités, parce qu'il y a beaucoup de signaux. Il y a beaucoup de signaux. Cet homme-là, dans le cas de ce qui s'est passé à Sainte-Sophie, avait un historique quand même assez chargé de violence. On était dans un contexte de séparation. Ça te rappelle-tu une des histoires qu'on a déjà entendues? Je veux dire, c'est comme si on jouait dans le même film une ou deux fois par mois. Puis tu sais, à un moment donné... Puis je suis contente de la voir, Mme Charest, parce que je comprends que la CAQ a été assez volubile sur la violence conjugale, s'est montrée proactif, a promis des affaires, a fait des rapports. Mais où est-ce qu'on est rendu avec ça? Puis qu'est-ce qui va arriver? Les sommes, est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce qu'ils sont alloués? Tu sais, je veux dire, moi, je veux savoir ça. Puis à un moment donné aussi, puis tu me disais, j'ai fait une personne qui vient en aide à une maison d'hommes violents. Les gens n'aiment pas ça quand on parle de ça. C'est comme si on aidait les agresseurs, mais c'est pas ça.
C'est ça, je lui ai dit.
Il faut absolument, parce que il faut absolument en parler, parce que si t'aides ces personnes-là, un, tu les empêches de récidiver. Là. Fait que ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais oui, parce que, bon, si on se parle de contexte post-séparation, on sait, là, c'est un contexte particulièrement dangereux les jours suivants, les semaines suivantes. Je comprends qu'il faut investir de l'argent pour les femmes qui sont victimes de violences, pour les maisons d'hébergement. Il faut qu'il y ait des endroits où aller. Il faut que leurs enfants aient des endroits où aller. Il faut qu'il y ait de l'argent pour se défendre. Tout ça, là. Il faut que le système de justice s'adapte. Mais il faut pogner le mal à la racine. Avant que la racine germe, tu comprends-tu? Moi, c'est ça.
Écoute, moi, ça fait longtemps que je parle de 1-800, je pogne les nerfs. T'sais, là, là, ça prend un endroit où les gars peuvent appeler pendant qu'il est dans le char, puis il dit m'arriver à m'ayant crissé en arrivant à la maison. De parler à quelqu'un entre-temps, préférablement un autre homme.
Pour désamorcer la situation.
Pour calmer le jeu un peu, là, puis mettre le pied, qu'ils prennent un pas de recul.
Ouais.
On n'a pas ça. Ça fait 20 ans que j'en parle. J'étais assez cassé puis j'en parlais.
Mais
à un moment donné, c'est parce qu'il faut arrêter de déplorer puis dénoncer. Il faut proposer des vraies solutions réelles.
Ben,
qui s'attaquent
au
l'argent aussi.
Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis, tu sais, je veux qu'on se parle du fameux bracelet, projet qui est à l'étude, le ministère de la Sécurité publique qui étudie ça en ce moment, qui préviendrait peut-être certains drames, mais pas tous. Parce que ce fameux bracelet-là, c'est pas une solution magique, là. À qui on va le mettre, dans quel contexte? Pas mettre un bracelet à n'importe quel gars. Il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'on prouve qu'il y a un risque d'agissement. Tu sais, je veux dire, ça se fait pas en criant ciseaux. Puis, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on se parle aussi de la violence conjugale chez les jeunes.
Mm-hmm.
Parce que ça touche de plus en plus de couples jeunes, des adolescents. Par ailleurs, SOS Violence conjugale ont fait une initiative l'an dernier qui était totalement en lien avec ça. Faisait une espèce de scénario dont vous êtes le héros par texto. C'est-à-dire, c'était une conversation entre deux personnes qui sortaient ensemble. Puis là, selon les réponses que tu faisais, tu disais à la fin si c'était toxique ou si c'était de la violence conjugale. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut parler avec nos jeunes filles et avec nos jeunes hommes pour dire là, c'est quoi une relation toxique? C'est quoi les signaux? Puis aussi, comment tu gères l'échec? Parce que tout ça, ça témoigne de ça. Comment tu gères l'échec d'un couple, l'échec d'une séparation, ton ego là-dedans? Comment tu te gères comme jeune homme puis comme jeune fille, j'imagine, dans certaines situations quand il y a de la violence psychologique, peut-être, mais on va pas se cacher
Non, mais ça, c'est toujours le danger. Là, on va parler de violence psychologique. Là, je vois des gars qui disent oui, mais les hommes aussi sont victimes. On va parler du réel problème, là, du tronc.
Mais l'ascendant physique que vous avez sur nous, il est réel, il est là. Je veux dire, ça vient de finir,
faut parler aux gars. Faut parler aux gars au primaire. Faut parler aux gars au secondaire. Faut leur dire que c'est pas ça être un homme de Christine Volée à une femme.
Non, mais c'est pas juste ça. Les gars qui se séparent, là, puis qui perdent le nord, puis qui capotent, puis qui se mettent à devenir violents. Souvent. Oui, puis il faut arrêter de penser aussi que ça arrive de même. Là. Il y a souvent des signes, puis il y a souvent une dynamique de violence conjugale. Tu sais, le fameux mythe selon lequel le gars a trop de peine, puis pète les plombs, là.
Non, mais le gars, il est tout seul. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Là. J'ai eu une séparation. J'ai trouvé ça tough, mais vraiment tough. Puis, j'étais pas le seul. J'étais à la table là, avec des chums. Là, puis, tout le monde nous parlait de ça. Puis, il disait, c'est quelque chose là, que tu vis. Puis, t'as la culpabilité. Puis, t'as les enfants. Puis, t'as la mère des enfants. Puis, qu'est-ce que t'as fait? Puis, pourquoi tu. Tu sais, il y a bien des remises en question. Puis, là, à un moment donné. Là,
les chicanes de garde d'enfants.
Puis, si tu mets de l'alcool là-dedans, si tu mets de la dope là-dedans, ça devient un cocktail vraiment dangereux. Ça prend un endroit où les hommes peuvent parler. Puis il y avait un documentaire qui parlait de ça, puis il disait, le gars arrive, il est au CLSC, puis c'est juste des femmes. Il veut pas parler à une femme, là. Il veut parler à un gars. Il veut parler à un homme.
Mais peut-être que comme les victimes de violences conjugales sont plus à l'aise de parler avec une intervenante femme ou d'être accueillies dans une maison où il y a des femmes. C'est logique. Puis c'est pas parce qu'on outille les hommes violents qu'on n'aide pas les femmes victimes de violences conjugales. Il faut arrêter de faire cet amalgame-là. Il faut s'attaquer au problème dans son ensemble. Donc moi, j'ai hâte de voir où on en est rendu avec ça. On a promis des sommes. Où sont-elles? Est-ce qu'on a les ressources? Parce que moi, je sais, tu leur parles aussi, là. Femmes qui appellent puis qu'il n'y a pas de place pour aller, là, sont pognées là avec leurs enfants puis leurs sacs, là, qu'est-ce qu'ils font?
Ou vous en allez dans une autre région administrative, puis là, la femme répond, ben, c'est pas j'ai une job, moi, là. Ça me prend une heure et demie à aller, puis
ça marche pas, là.
Puis le kid, les enfants, ils doivent aller à l'école. Fait que là, on déplace la victime et souvent les enfants dans une autre région, puis on dit que le problème est réglé. Ben non,
l'agresseur, lui, continue à vivre sa vie, là, en passant. Ouais. Il n'est pas déplacé, il est encore dans sa maison.
Ouais. Non, il y a bien des cas de même, là, puis dès qu'on s'intéresse à la question, il me semble que là, tu sais, les policiers aussi qui laissent aller des affaires, qui ferment les yeux, tu sais, Daphné Boudreau, là.
Daphné Huard-Boudreau, ben oui, ça, c'est terrible, cette histoire-là. Ça, c'en est un cas où c'était chronique, entre guillemets, c'est super triste de dire ça, mais c'était chronique d'une mort annoncée. Il l'avait dit sur Facebook. Il y a eu un manquement quelque part, là. C'est bien clair. Mais moi, en tout cas, ces histoires-là, ça fait cliché de dire qu'on est tanné d'en voir, mais on va en voir d'autres. C'est ce qui est le plus triste.
Non, voilà, puis il faut penser à nos filles, puis il faut penser à nos gars. Les gars sont pas plus heureux dans ce contexte-là, là. Puis c'est comme si le cours de culture d'éthique religieuse, ça, c'est bien, bien important.
Mais ça peut être intégré là-dedans, Benoît,
non,
en passant.
Le bateau de Noé, là, tu sais, c'est dans les premières pages en première année, là, de culture, éthique, culture religieuse. Noé, astille.
Mais il faut qu'on ramène les cours d'éducation sexuelle à l'école, et dans tout ça, il faut qu'on parle de ces enjeux-là.
Les relations de femmes, puis les gars, puis le rejet, puis oui, non, ta blonde t'appartient pas.
Puis, c'est ça, les blessures narcissiques, puis toutes ces affaires-là, il faut gérer, là.
Bon, écoute, on t'écoute à 13h, Mme Charest.
13h30,
Isabelle Charest. 13h30. Non, mais tu vois, je suis là pour préciser les choses. Je sers à ça. Merci, merci, Geneviève.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Commence à lever des airs dans son vieux Volkswagen vert. Il criait à tous les saints, puis il avait l'air d'un vieux martien. Puis le moteur chante une chanson. Le Seigneur y est dans le moteur.
Ça, c'est du folklore, mesdames et messieurs. Ça, c'est de la culture, Sébastien. Merci. Antoine Joubert est avec nous, les chroniqueurs automobiles pour le guide de l'auto. Monsieur Joubert, bonjour.
J'ai le tympan qui cille, là, présentement.
Hey, c'est nos chansons, c'est nos classiques, ça, Antoine. Là. Faut ben, célébrer notre culture.
Oui, oui. C'est assez, là.
Ou non. Bon, tu veux nous parler des hybrides chez Toyota?
Oui, parce que, écoute, il y a un... Bon, évidemment, à chaque année, Toyota nous envoie des communiqués vantant les mérites de tout ce qu'ils ont fait de bien, puis ils n'envoient pas de communiqués ne vantant pas les mérites de ce qu'ils ont fait de mal. Évidemment.
Mais
c'est clair que les ventes de produits hybrides du côté de chez Toyota vont en forte augmentation. On multiplie les versions hybrides dans chacune des gammes chez Toyota. Bon, j'ai récemment réessayé le RAV4 hybride. Je parle pas du Prime, là, de la version qui est affichable, mais du hybride régulier. Et on a pris cette mécanique-là, on l'a greffée sous le capot de la nouvelle Venza, de la nouvelle fourgonnette Sienna. Et j'ai pu conduire la semaine dernière une fourgonnette Sienna. Évidemment, on le sait, là, le marché de la fourgonnette c'est pas une pente ascendante, bien sûr, mais c'est quand même un produit qui demeure très pertinent. Et à chaque fois que je reprends le volant d'une fourgonnette, que ce soit une Chrysler, une Honda, une Toyota, Kia même, qui offre toujours des produits à ce niveau-là, la pertinence de continuer à offrir un produit comme ça sur le marché, elle me saute aux yeux bien plus que n'importe quel VUS dans lequel il faut que tu essaies de trouver de l'espace parce que c'est pas aussi polyvalent. Il n'y a rien pour arriver avec la polyvalence d'une fourgonnette, même si les mamans d'aujourd'hui ne trouvent pas ça sexy. Fait que je reprends le volant de ce véhicule-là et, bon, je me souviens de l'ancienne Sienna qui roulait à 12-13 litres au 100 avec son moteur V6. Et là, on embarque dans une fourgonnette qui roule sous la barre des 8 litres au 100 à moins 15 en hiver. Je suis flabbergasté par le peu d'essence que ce gros véhicule-là consomme, la polyvalence que ça procure, le comportement routier qui est impressionnant. Et ironiquement, la semaine d'avant, je prenais le volant de la nouvelle Chrysler Pacifica avec rouage intégral, qui, elle, propose un moteur V6. Et j'ai fait du 14,5 litres au 100. Donc là, j'ai fait, on a deux nouveaux produits qui arrivent sur le marché avec rouage intégral. Toyota prend la voie de l'hybride roule à 7,5% et ça va être moins que ça en été. Et Chrysler, de son côté, on est à du 14,5% pour un produit qui va déprécier à la vitesse de la lumière par rapport à une Toyota.
Ah oui, à l'achat, Antoine, est-ce que c'est comparable?
Ben, tout dépend des versions que tu vas choisir. Évidemment, la fourgonnette Chrysler que j'ai conduite, ils m'ont fourni le NEC plus Ultra, était 69 000 $. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Mais d'un autre côté, ce qui a aucun sens, c'est pas qu'on demande 69 000 $ pour ce produit-là, parce qu'honnêtement, le niveau de luxe et de finition de technologie qu'il y a là-dedans est quand même assez impressionnant. Là où se situe le problème, c'est que l'année d'après, ça vaut 35 000.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas de demande pour un produit comme ça, parce que Chrysler n'a jamais réussi à bien placer son produit sur le marché pour remplacer la Grand Caravane, si bien que c'est un produit qui se vend pratiquement pas, alors que les fourgonnettes Honda et Toyota conservent leur valeur. Donc, tu achètes une Sienna, même si tu paies 50, 55 000 selon les options que tu vas choisir, t'as un véhicule qui roule à 7,5%, qui est capable de transporter ta famille, qui est super polyvalent et qui va se revendre à très haut prix parce qu'il y a une demande sur le marché d'occasion pour ces modèles-là. Alors moi, j'ai vraiment été impressionné par ça et je considère que Toyota va se démarquer pour une fois avec sa fourgonnette Sienna dans un marché qui va pas en augmentant, mais qui ne se résume qu'à 4 constructeurs aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et j'ai vraiment été impressionné par cette technologie-là qui fait un travail exceptionnel.
OK, explique-moi une chose, Antoine. Là, ça veut dire que ça, c'est hybride, mais il est pas branchable. Ça veut dire que c'est le moteur à essence qui recharge le moteur électrique?
C'est-à-dire que le moteur électrique vient assister le moteur à essence pour offrir une puissance adéquate. Et lorsqu'on n'a pas besoin de certains niveaux de puissance, on roule en électrique tout simplement. Donc, si tu roules majoritairement en ville, tu vas consommer moins que si tu roules que sur l'autoroute.
Non, mais t'as une batterie qui se décharge pendant ce temps-là.
Ben, c'est une batterie qui se décharge et qui se recharge avec l'énergie cinétique qui provient du freinage, par exemple. Mais c'est le même principe qu'une hybride il y a 15 ans, là. C'est juste qu'on a amélioré la formule et qu'aujourd'hui, on est capable de jumeler un moteur à essence traditionnel à un moteur électrique et une batterie de petite taille qui font un travail exceptionnel. Pour moi, je dirais pas que c'est le meilleur des mondes parce qu'évidemment, plus on roule en mode 100% électrique, mieux c'est.
Mm-hmm.
Mais dans le contexte où on vend ce véhicule-là sur un marché nord-américain, qui, de façon générale, veut rien savoir de l'électrique, ce véhicule-là te donne pas l'impression d'un... Je veux dire, t'as aucun effort à faire pour brancher ton véhicule. T'as, tu sais, je veux dire,
mais est-ce que tu connais l'autonomie sur un réservoir d'essence?
Ah, plus de 700 kilomètres.
Ah oui, quand même, hein?
Plus de 700 kilomètres. J'ai fait un aller-retour au Québec sans mettre d'essence, moi, avec ce véhicule-là. Alors, je peux te dire que c'est vraiment exceptionnel.
Oui. C'est comme le meilleur compromis, hein, entre l'électrique qui nous stresse tout le temps parce qu'on ne sait pas s'il y a une borne là où on s'en va et la voiture à essence qui pollue puis qu'il faut arrêter d'utiliser. C'est comme la transition dans le meilleur des mondes.
Ben, c'est non seulement que c'est une transition, mais je veux dire, c'est une transition qui dure depuis longtemps et que les gens continuent à se demander s'ils devraient adopter 20 ans après l'introduction de cette technologie-là par Toyota avec la Prius en 2000 au Canada. Donc,
ouais, ouais.
C'est vraiment, évidemment, la Prius, lorsque c'est arrivé, ça a beaucoup évolué depuis, là, pas besoin de te dire, mais d'aller chercher une puissance de plus de 200 chevaux avec un petit 4 cylindres, avec un moteur électrique qui t'offre un couple initial super intéressant.
Mm-hmm.
J'ai vraiment, vraiment trouvé que cette formule-là que Toyota adoptait pour sa fourgonnette était totalement réussie.
OK. Les concessionnaires américains font pas pitié, hein, cette année?
Écoute, j'ai trouvé ça intéressant parce que je savais de plusieurs sources que les concessionnaires de véhicules neufs cette année avaient fait des profits supérieurs à 2019. Donc 2020 avait été une meilleure année que 2019 malgré une baisse de vente de 20% de leurs produits. Et ça s'explique bien sûr par le fait que on n'avait pas beaucoup d'employés à payer, on n'avait pas beaucoup d'inventaire à supporter. Les ventes qu'on faisait, les marges de profit étaient plus intéressantes parce que l'inventaire était bas, parce qu'il y avait une demande sur certains produits. Donc, il y a un paquet de facteurs qui expliquaient ça. Mais la NADA, qui est en fait l'équivalent de la CADA, donc l'Association des concessionnaires automobiles des États-Unis, dévoilait dans le fond, dans le magazine Automotive News, que les concessionnaires avaient eu une augmentation de profit de 48 % en 2020 par rapport à 2019. Ils ont fait en moyenne 2,1 millions de dollars de profit chacun des concessionnaires américains. Et évidemment, pas besoin de te dire que du côté canadien, ça doit y ressembler. Mm-hmm. Un peu moins, je dirais, parce qu'au Canada, on a été forcé de fermer des concessionnaires pendant un certain temps. Les règles n'étaient pas les mêmes, mais il en demeure pas moins que la profitabilité par véhicule a fortement augmenté. Et parce que les constructeurs forcent moins la note sur de gros inventaires chez des concessionnaires, ben les concessionnaires sont capables de faire des profits qui sont nettement supérieurs à ce qu'on faisait dans le passé. C'est ça le nerf de la guerre des concessionnaires, c'est de conserver un inventaire le plus bas possible et d'écouler ces véhicules avec une marge de profit intéressante. Et on le voit actuellement, c'est encore la folie au niveau des camions pleine grandeur. On n'est pas capable d'en avoir. Tu veux un F-150 demain matin, tu vas l'attendre 3-4 mois, mais attends-toi pas à avoir 10 000 piastres de rabais, là.
Ouais, non, c'est ça.
Il n'y en a plus de ça.
Ça va être le plein prix, hein, parce que c'est l'offre et la demande, de toute évidence.
Ben, c'est l'offre et la demande, effectivement, et c'est la capacité du constructeur à fabriquer ses véhicules puis à fournir le marché canadien, parce qu'évidemment, comme on manque de véhicules, on manque de pièces, il y a un gros manque au niveau des processeurs en ce moment pour fabriquer des véhicules.
Ouais.
Ben, comme il y a un manque à ce niveau-là, évidemment, on va d'abord fournir le marché américain où les ventes sont plus payantes que le marché canadien à cause du taux de change. Donc, c'est d'une évidence. Donc, chez nous, c'est un problème et c'est doublement un problème puisque lorsqu'on vend un camion neuf, bien souvent, 6 mois, 1 an après, ce véhicule-là va se retrouver chez un revendeur qui va le rapatrier aux États-Unis où la demande dans l'occasion est très forte aussi et plus payante. Donc, on se retrouve avec une pénurie de camions en ce moment chez nous. Mais c'est ça, je pense qu'on va continuer de voir ça pour encore un certain temps.
Bon, et je pensais que la solde Kia était censée disparaître.
Écoute, je conduis ce véhicule-là cette semaine et c'est pour ça que je t'en reparle. Parce que je l'avais conduit lorsqu'elle est arrivée sur le marché. Et honnêtement, quand tu compares ce qui existe actuellement sur le marché, tu prends le volant de ça, tu fais, sais-tu, c'est un sacré bon petit véhicule électrique. Selon la version que tu vas choisir, l'autonomie peut varier, parce que tu peux prendre une version avec une autonomie qui varie, qui est autour de 275 km, là, je me souviens pas du chiffre exact, et sinon, ben, tu es à 390 avec la version qui a la plus grosse batterie. En hiver, ça baisse un peu plus, je te dirais, que dans le cas d'une Chevrolet Bolt. L'autonomie là maximale va être autour, là, dans un contexte de moins 10 degrés, là, on est autour de 250-260, autour de ça quand il fait vraiment froid. Mais ça demeure au niveau polyvalence, au niveau maniabilité, au niveau puissance et plaisir de conduire un produit qui est vraiment étonnant. Puis qui a l'avantage d'être garanti plus longtemps que la moyenne des autres véhicules du marché. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même un produit intéressant. Et finalement, ben les concessionnaires Kia prennent ça au sérieux. Tu sais, il y a une certaine époque où tu voulais t'acheter une Soul électrique, t'arrivais là-bas puis faisais tout pour t'asseoir dans une voiture à essence. Ben là, c'est pas le cas. Ils en ont en inventaire. C'est un produit qu'on est capable de promouvoir, de vendre avec.
Mais c'est un peu. Il y a quelle couleur le véhicule que tu conduis? Moi, je n'ai essayé un l'année passée, puis c'était comme 55 000 $. Là, tu dis, attends une minute, là, une Kia 55 000 $.
Ben, c'est l'erreur que Kia a fait aussi en arrivant avec ses premières Souls, c'est qu'on t'arrivais pour acheter ce véhicule-là, puis on aurait dit qu'on s'était inspiré des trois couleurs proposées par la pâte à dents Aquafresh pour te vendre un véhicule.
Ouais.
T'avais un turquoise pastel avec des garnitures blanches, puis des roues qui avaient de l'air des micro-sillons. Là.
Ouais.
On a éliminé ça, là, puis on a donné un look un peu plus traditionnel au véhicule. Le véhicule que j'ai là est d'un bleu assez voyant, mais uniforme, très élégant. Là. Tu peux l'avoir dans des couleurs plus classiques, là, le noir, le blanc, comme ce qui se vend à peu près partout. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vrai que le véhicule, initialement, n'est pas donné. Mais je pense que pour celui qui n'a pas nécessairement besoin d'une super grande autonomie, d'aller opter pour la version d'entrée de gamme qui, avec les crédits gouvernementaux, revient autour de 30 000 $, ben là, ça commence à être un peu plus intéressant.
Mais il y a la comment ça s'appelle, pas la Rondo chez Kia, là, il y a la Niro.
La Niro, Niro.
Qui est un petit camion qui est comme le Kona, finalement. C'est comparable. Et l'autonomie est comparable.
c'est exactement la même technologie, mais la Niro, au chapitre de sa version de base, elle est, à mon sens, inintéressante. Et lorsqu'on s'en va dans le modèle plus équipé, ben là, la facture est élevée. Là, on est à du gros 55 000 $. Alors, c'est ça qui est un peu décevant, c'est que on a un véhicule qui est quand même assez cher pour la technologie qu'on propose. Une Soul et une Kona de Hyundai qui offrent la même technologie vont coûter moins cher. Et c'est un peu pour ça que la Niro, on en vend, mais pas tant que ça. Là, évidemment, les concessionnaires en ont un peu plus qu'ils en ont eu à une certaine époque, mais ça demeure un produit qui, selon moi, n'est pas voué à une carrière encore très longue parce que c'est une espèce de pseudo VUS, mais qui fait plus voiture familiale, format Toyota Matrix, par exemple. Ça semble pogner un peu au Québec, mais à l'échelle nord-américaine, pas pantoute. Alors, moi, j'ai pas l'impression que Kia va mettre beaucoup d'énergie là-dedans. En fait, ce qui serait absolument logique, c'est qu'on prenne cette technologie-là et qu'on la greffe dans le nouveau Seltos, ce qui est tout à fait possible, parce que c'est un partage de plateforme avec le Kona. Et à ce moment-là, le Niro serait carrément appelé à disparaître.
Très bien. Antoine Joubert, du Guide de l'Auto, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Tu peux remettre ta musique folklore maintenant.
Merci. Salut.
Salut.
3, 2,
actualité.
1.
Alexandre Dubé.
On a failli faire jouer ça encore. Tu pourrais le faire jouer pour Alexandre. Je suis sûr qu'il l'apprécierait. Bon. Monsieur Dubé, bonjour.
Salut, Benoît.
Bonjour. Là, le bilan hier, c'était une bonne nouvelle. Est-ce que tu as une meilleure nouvelle encore aujourd'hui?
Ben, le bilan du mercredi est règle générale, toujours un petit peu plus élevé parce que il y a davantage de tests et c'est ultimement ce qu'on a encore une fois aujourd'hui. 729 cas sur 28 941 tests. Ça, Benoît, c'est à peu près 10 000 tests de plus là que les chiffres du début de la semaine. Donc, c'est un portrait un peu plus précis. Les décès sont repartis à la hausse avec 19. Les hospitalisations sont en baisse de 10 pour un total de 618. Une personne de moins aux soins intensifs avec 120 et on a administré plus de 16 000 doses de vaccins. Maintenant, au moment où on se parle, Benoît, il y a un point de presse notamment de Justin Trudeau, de Chrystia Freeland et de François-Philippe Champagne. Et ce qui ressort de ce point de presse-là, deux choses jusqu'à maintenant. La première, investissement de 518 millions de dollars en recherche de fines pointes annoncée par Justin Trudeau.
Bravo.
Ça va permettre donc d'aller de l'avant avec une centaine de projets, soit pour étudier des virus, pour approfondir des traitements contre le cancer également. Et l'autre annonce importante qui a été faite au cours des toutes dernières minutes, Benoît, c'est Christian Freeland qui a annoncé la prolongation de la subvention salariale d'urgence et la subvention d'urgence pour le loyer. On prolonge ça là, jusqu'à la mi-juin.
Bon, pour la norme. Et je voyais que c'est ça, 1 800 000 doses qui s'en viennent?
Oui, ben ça va être un sommet, je te dirais, dans les deux prochaines semaines, là, on va atteindre un sommet. Alors, j'ai les chiffres ici. On parle d'1,8 million de doses cette semaine et la semaine prochaine. Donc, effectivement, c'est encourageant. Et on surveillait aussi l'arrivée de ces doses du vaccin d'AstraZeneca, ces 500 000 doses. C'est maintenant livré au Canada, selon Justin Trudeau. Par contre, l'enjeu avec ces doses-là, Benoît, c'est qu'il va falloir les distribuer rapidement parce qu'elles vont passer date le 2 avril. Il y en a 300 000 sur les 500 000 qui vont passer date le 2 avril. On sait que ce vaccin-là n'est pas recommandé pour les personnes âgées. C'est une question de manque de données au niveau des effets secondaires sur les 65 ans et plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On sait que Santé Canada recommande le produit pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans et en incluant les vaccins de Pfizer. Ce sont près de 950 000 doses qui seront livrées au pays cette semaine. Et quand on additionne les livraisons de la semaine prochaine, on frôle les 2 millions.
Bon, ouais, roule ta manche, sacramouille, qu'on règle ça, les vaccins. Il y a le point de presse de François Legault à 17h.
Ouais, et c'est heure de grande écoute, heure de grandes annonces, hein, selon ce que le premier ministre nous a habitués. Règle générale, quand le PM convoquait les médias à cette heure-là, c'est qu'il avait de grandes choses à annoncer. Est-ce qu'il y aura d'autres régions qui vont passer en zone orange? Je regardais certains chiffres, Benoît, notamment pour région de Québec, 32 nouveaux cas, Chaudière-Appalaches 9, Mauricie-Centre-du-Québec 26, Estrie 31. Ce sont, j'ai l'impression, là, si on suit la logique, les régions qui pourraient basculer en zone orange. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'est du Québec, l'Abitibi. Est-ce qu'on va revenir à un système à trois paliers de couleurs avec la zone jaune, par exemple, pour permettre davantage d'assouplissement, quoi qu'en Abitibi, avec la situation des variants sud-africains, il faudra voir. Mais parlant de variants, je sais pas si tu as eu la même impression que moi hier en regardant le point de presse de Christian Dubé et du docteur Arruda, mais moi j'ai l'impression hier qu'on a vraiment voulu faire baisser les attentes, là. Notamment pour le Grand Montréal, où c'est encore élevé, le feu est encore pris.
Il y a des requins.
Oui, j'ai aimé l'analogie avec les requins, c'est intéressant.
C'est ça.
On est véritablement dans une période d'une mer calme sur un plateau, pas trop de vagues, ça descend pas, mais en dessous il y a des requins, puis ces requins-là, je vais vous les dire, c'est les variants.
Ah, ça c'est bon. Steven Spielberg a émis à contribution. Merci Sébastien.
Le nouveau remake. de Jaws.
Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mettant en vedette Horacio Arruda comme le capitaine qui va à la chasse aux requins.
Capitaine Arruda. Ah non, c'est ça. Alors, tu sais, moi j'ai senti vraiment cette inquiétude-là hier et que est-ce qu'il y aura des petits assouplissements ciblés? Peut-être, mais pour le Grand Montréal, je m'attends pas à grand-chose, mais écoute, on verra bien, on sera fixé. Parce que pour ce qui est des variants, je regardais ça juste avant de m'en venir avec toi, on est toujours à 137 cas confirmés, mais 1220 cas présomptifs, donc au niveau du criblage. Alors, c'est peut-être là le fameux requin qui nous menace, Benoît.
On va le voir. Et plus de 350 pharmaciens de Montréal qui lèvent la main. Mais juste à Montréal, là, qui veulent vacciner.
Oui, bien, au début, le projet pilote va commencer à Montréal, mais ça va être élargi, là. Moi, j'ai l'impression dans un horizon assez rapproché.
Pourquoi on niaise avec ça, là? Tu sais, à Laval, à Montérégie, sortez les pharmaciens, puis sortez les seringues.
Ouais, ben d'autant plus que c'est un système qui marche déjà très très bien. Je veux dire, moi, mon vaccin contre la grippe saisonnière, je l'ai à la pharmacie, ça fait déjà un bon moment, puis ça va très bien, c'est efficace. Donc maintenant, ce qu'on a appris, 350 pharmaciens de Montréal qui ont manifesté l'intérêt de participer à cet effort de vaccination. On sait que ça commence le 15 mars, là, ça a été confirmé hier lors du point de presse. Et cette campagne de vaccination contre la grippe de l'automne aurait peut-être servi un peu de répétition pour les pharmaciens. Et à ce moment-là, ils avaient vacciné 700 000 personnes. Donc, les pharmaciens vont recevoir des doses du vaccin de Moderna, qui se conserve beaucoup plus facilement que celui de Pfizer. Et depuis hier, le téléphone de plusieurs pharmacies ne dérougissait pas, si bien qu'à un moment donné, Christian Dubé a dû mentionner dans le point de presse, attendez, là, avant d'appeler à la
prendre pharmacie. Rendez-vous.
De toute façon, la prise de rendez-vous va se faire encore une fois via le portail Clic Santé, et ce, à compter du 15 mars, donc c'est pas nécessaire d'appeler tout de suite à votre pharmacie, à moins que vous ayez vraiment des prescriptions puis une raison valable de le faire, là, mais pour le vaccin contre la COVID, il faut attendre à partir du 15 mars.
Tu sais, Alexandre, quand tu rentres dans une pharmacie, là, il y a toujours une musique plate, hein, qui joue, là, c'est comme un ascenseur.
Mais
regarde bien ce qu'il va jouer, là, bientôt.
Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate.
Ça va du Dolly Parton dans toutes les pharmacies. Il faudrait qu'elle la fasse en français, par exemple. Faudrait
que quelqu'un
la traduise. Vaccin. Mm-hmm. Bon, OK.
Mais ça pourrait être toi. On pourrait enregistrer toi.
Mon beau rossignol,
toi.
Regarde bien les gens virer de bord, toi, à l'entrée des pharmacies. C'est assez pénible, pas besoin d'entendre ça.
Tu découragerais la vaccination.
Je les mettrais dans la rue, bien raide. Ouais.
Mais faut encourager la vaccination, parce que je t'ai pas vu les chiffres là, ce matin. Au niveau de l'espérance de vie au Québec en 2020, ça a diminué. Hein. On est à 80,6 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. C'est l'Institut de la statistique du Québec qui nous précisait que ça représente une baisse quand même de 5 mois chez les hommes, de 8 mois pour les femmes, comparativement à l'espérance de vie de 2019. Et c'est assez particulier, phénomène exceptionnel, parce qu'habituellement, l'espérance de vie augmente au fil des ans. Mais là, c'est vraiment relié à la pandémie de COVID-19 qui a fait baisser cette espérance de vie au Québec.
80 ans, hein? Pour les hommes?
OK. 0,6.
OK. Si t'as des choses à faire, grouille-toi. Parce que ça vient vite.
Bon, chaque mois, Benoît.
Ce écrasement d'avion, on parlera de Sainte-Sophie à la fin. Écrasement d'avion dans les Laurentides, ça, je savais pas ça.
Oui, très peu de détails, mais on voyait des images de l'hélicoptère TVA Nouvelle du côté de Gore dans les Laurentides. C'est un avion qui s'est écrasé ce matin à peu près autour de 8h30 là, dans un lac, c'est le lac Barron. Il y a des témoins qui ont contacté les services d'urgence après avoir été témoins là, de la scène. On voyait vraiment l'appareil qui s'est encastré, là, qui a piqué du nez, qui semble s'être encastré dans le lac maintenant. Combien de passagers à l'intérieur, la nature des blessures. Pour l'instant, ces informations-là n'ont pas été communiquées. Il y a toute une opération de sauvetage qui est en branle là, pour tenter de se rendre d'un jusqu'à l'appareil, mais aussi de porter secours aux possibles victimes. C'est une nouvelle qui est toujours en développement.
Parfait. L'immobilier en folie, il y a Catherine Fournier qui a déposé une motion à l'Assemblée nationale pour dire là, faut établir des règles parce que c'est l'anarchie.
Ben, on a des chiffres qui le démontrent encore une fois ce midi, Benoît. Le prix de l'immobilier qui continue de grimper, et notamment dans la région de Montréal, en février, là, okay, la valeur médiane des maisons unifamiliales, ça a atteint 460 000 $. Si on recule de 12 mois, on était à 360 000 $. Donc, ça a gonflé là, de 100 000, un bond de 28 % en l'espace d'un an, selon ce que nous dit l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Ça, c'est pour les maisons unifamiliales. Maintenant, pour les condos, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu une hausse, peut-être moins importante, mais quand même, la valeur médiane est passée de 275 000 à 340 000 $. Alors, depuis l'arrivée de la COVID, on l'a vu, là, il y a plusieurs familles qui ont soit voulu aller dans plus grand ou carrément fuir la ville. Et on assiste à des phénomènes assez impressionnants, tu sais, de surenchère. Tu sais, souvent, on dit aux gens, ben, as-tu 100 000 de plus à mettre sur cette maison-là? Ben, sinon, oublie ça. Ouais. Ben, on est rendu là.
Et de laisser faire l'inspection aussi à l'achat.
Ben, c'était mon prochain point.
Ben oui.
Les gens achètent sans inspection, sans condition, sans éplucher les documents. Écoute, on est rendu là.
Tu sais, ça
comporte certains risques.
Tu sais même pas si tu achètes la maison du vrai propriétaire dans ces conditions-là. Tu sais, il faut voir, quand même tu vérifies une coupe d'affaires. Non, c'est fourraine. Même que, à un moment donné, on se promenait dans le quartier chez nous, Alex, puis j'ai envoyé un mot à un agent immobilier que je connaissais pas, puis je dis, vraiment, 1,3 million pour cette maison-là? Puis il m'a répondu assez honnêtement en disant, écoute, ça a juste pas d'allure, on a à peine temps de les mettre sur le marché que ça part, tu sais. 1,3 million.
Le problème aussi, là, c'est quand tu surfinances une maison. Donc, supposons que ta maison à 1,3 million, puis sa vraie valeur est plus basse que ça.
Ouais.
Et là, quand tu t'en vas à la banque, ben, tu finances un peu du
vide.
Une balloune, là.
Oh, ouais.
Alors, éventuellement, avec s'il y a hausse des taux d'intérêt, c'est très, très bas, là, en bas, là, c'est en bas de 2 % là,
mm-hmm.
et même plus. Mais si éventuellement ça augmente, il y a un risque. Alors, qu'est-ce que les familles font dans ce temps-là? Ben, plusieurs se sont tournés vers les constructions neuves.
Ouais.
Et on me disait que c'est pas rare là, que certains constructeurs ont une centaine d'appels ou de courriels ou de demandes d'informations par jour.
Parce qu'il n'y a plus de maisons unifamiliales. Là, tout ce qu'on construit, c'est des condos ou des maisons de ville collées les unes sur les autres pour faire plus d'argent possible en taxes foncières.
Oui, mais c'est que les terrains sont très chers aussi. Là. Les terrains sont très chers. Donc, un terrain, exemple, au centre-ville de Montréal, ben, si tu construis
si tu construis
des semi-détachés, tu vas le payer, ton semi-détaché.
Mais même en banlieue, tu sais. Oui, mais à Montréal, là, ils veulent quoi? Ils veulent juste des yuppies qui vivent seuls? Ils en veulent-tu des familles? Ils en veulent pas. Ça fait moi, il a arrêté de construire des condos à deux chambres. T'sais, tu peux pas élever une famille avec 2-3 enfants dans un condo.
Fait que c'est chanceux ça. Si t'as deux chambres.
Ouais, c'est ça. Hein? T'as deux chambres et un placard, là, plus que d'autres choses. Retour vite sur le drame de Sainte-Sophie. On en a parlé beaucoup. C'est assez troublant.
Ben, c'est vraiment troublant. Là, on en sait un petit peu plus là, sur le suspect dans cette histoire-là. Un gars de 33 ans qui traînait un passé criminel extrêmement chargé. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Depuis l'âge adulte, il a passé devant les tribunaux une vingtaine de fois. Okay. Donc, entre l'âge de 18 et 33 ans, une vingtaine de fois devant les tribunaux. On remonte à 2016, a plaidé coupable à des voies de fait, menaces envers une autre ex-conjointe dans un contexte de séparation. Donc, il y a une espèce de pattern, semble-t-il, selon les informations qu'on a. Et nos collègues du Journal de Montréal ont eu témoignage d'une troisième ex-copine en question qui a dit avoir vécu l'enfer pendant les deux années où elle a été en couple avec lui. Puis, tu sais, c'est un crime extrêmement violent, là. Ce gars-là est accusé d'avoir abattu son ex-conjointe ainsi que la mère à coups de hache avant d'essayer de s'enlever la vie en provoquant un accident à Saint-Jérôme, 3 kilomètres plus loin. Donc, j'entendais un spécialiste à la télé qui disait, est-ce que ce gars-là, c'était une bombe à retardement? Et si oui, ben le système de justice a à se poser des questions,
mais,
Benoît.
Mais les autres hommes autour de lui étaient où? Autres hommes qu'il voyait agir en malade mental, là, en psychopathe, en misogyne fini, il n'y en a pas un qui a dit « Hey, le gros, là, tu vas aller en thérapie, tu vas aller voir quelqu'un parce que tu as un problème dans la tête. » Tu sais, puis je veux dire, ça, tu peux pas laisser aller des hommes de même dans la société. À un moment donné, il va falloir intervenir. Pour l'instant, personne ne le fait.
Non, c'est clair. T'as absolument raison.
Ouais, je te jure, ça me met à bout, parce que je pense à nos filles, à nos sœurs, à nos mères, à nos, tu sais, là, on peut plus tolérer ça, là. On peut plus essayer de comprendre. Là, il va falloir intervenir auprès de ces gars-là. Puis lui, s'il survit à l'accident, je veux plus le voir dans la rue, là. J'espère qu'il va rester en dedans jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'est un homme dangereux.
Il est reconnu coupable, effectivement, de 2 meurtres violents comme ça. Effectivement, il en a pour très, très longtemps.
Ouais.
Mais, tu sais, c'est le 5e meurtre.
C'est encore drôle, hein?
De femmes à survenir dans le dernier mois, là.
Ouais,
c'est énorme. On est sur une séquence très, très dramatique et très lugubre. On a de sérieuses questions comme société à se poser par rapport à ça.
D'ailleurs, Isabelle Charest, la ministre de la Condition féminine, sera avec Geneviève Peterson à 13h30 pour faire le suivi sur la question. Juste pour finir, là, à 17h, c'est François Legault. Puis juste pour qu'on se laisse sur un autre ton que celui-là, Sébastien, t'as-tu le jazz? Pas loin, t'as-tu le requin qu'appréhende le capitaine Arruda? Attention, ça s'en vient. Oh, méfiez-vous. Mettez votre speedo.
On voit l'aileron, là.
Oui, il s'en vient. Ça, c'est le variant. Jazz, variant. En vrai. Horatio. S'en vient. Bon, c'est assez. OK, merci, Alexandre. On se reparle demain.
À demain. Bye.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Alexandre Dubé est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Alexandre Dubé. Des entrevues de fond avec les acteurs de l'actualité. Cube Radio.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Du Trizac, un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Tariq Yassarevic est avec nous. Il est porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Monsieur Yassarevic, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Merci de revenir à l'émission. Écoutez, je lisais les propos du directeur exécutif de l'OMS, Dr. Michael Ryan, qui disait que c'était peu réaliste l'éradication de la COVID-19. Puis j'ai lu ailleurs, là, mettons les choses en contexte. Pouvez-vous préciser les propos du Dr. Ryan? Est-ce qu'on va se débarrasser de la COVID-19, M. Yassarevic, d'ici 2022?
Je crois que ce que Dr. Ryan voulait dire, et c'est ce qu'on pense à l'OMS, c'est que le virus, il va rester avec nous. Mais ce qu'on peut faire, et ce qu'on devrait tous faire, c'est essayer de réduire au maximum le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès provoqués par COVID-19. Et ça va se faire si on met en place les 3 éléments. Le premier, c'est l'action individuelle, donc des gens qui vont réduire le risque d'être infecté ou d'infecter les autres par les actions de santé publique des autorités, à savoir tester, tracer les gens, essayer de briser les chaînes de transmission. Et le nouveau élément, la vaccination, qui va nous aider évidemment à réduire donc le nombre de gens qui développent une forme sévère de la maladie.
Est-ce que ça veut dire que la pandémie, que la contamination se déplace? Parce que je lisais que dans 4 des 6 régions du monde, on voit des cas augmenter, les Amériques, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale. Est-ce que la pandémie se déplace?
On a vu au cours de l'année dernière et ces mois-ci, 2021, que en fait il y a des hauts et des bas. Donc dès que les gouvernements mettent en place des mesures plus strictes, on voit qu'il y a une baisse d'infection. Des gouvernements qui réussissent à vraiment réduire les chaînes de transmission sans mettre en place des mesures drastiques, c'est encore mieux. Mais on voit que malheureusement on va d'une vague à l'autre et que des fois les gouvernements se retrouvent obligés de réintroduire des mesures. Donc on peut pas parler vraiment d'un déplacement. On voit juste que là où les gouvernements ont réussi à mettre en place des mesures de santé publique, où les gens respectent ces mesures, on voit qu'on peut effectivement réduire le nombre d'infections. S'ajoute à cela maintenant les vaccins, et on espère que les vaccins et la vaccination équitable sera vraiment un élément décisif pour réduire effectivement le nombre d'hospitalisations et de décès.
Monsieur Yasser Revic, est-ce qu'on assiste à une course entre les variants et la vaccination? Est-ce qu'on doit tenir compte de la présence des variants?
Oui, effectivement. Donc, nous, à l'OMS, on est en train, depuis le début de cette pandémie, de regarder l'évolution du virus. Donc, le virus change tout le temps. Des fois, ces changements n'ont pas de signification, mais des fois, on voit que ces changements sont plus importants et qu'ils puissent avoir un impact sur la transmission, sur la morbidité ou mortalité. Donc, on a maintenant quelques nouvelles variantes qui apparaissent pouvoir se transmettre plus facilement que d'autres. Donc, on est en train de regarder ces variants. Ce qu'on essaie vraiment de dire, c'est que la vaccination équitable est non seulement juste, mais c'est aussi, ça fait, c'est une action appropriée du point de vue santé publique. Parce que regardez bien, si vous vaccinez toute la population d'un pays, le virus, il va continuer à circuler dans d'autres pays et va avoir plus de temps pour changer et on aura des variantes qui pourraient à la limite donc menacer la population qui est vaccinée avec des vaccins qui ont été conçus pour des variantes précédentes. Donc voilà, on espère vraiment que les pays vont adhérer à notre mécanisme de COVAX qui va assurer un accès équitable aux vaccins.
Justement, ce programme COVAX, M. Yasser Revic, il est prévu pour les pays défavorisés. Puis là, on lisait que le Canada y avait fait appel. Comment répartir les vaccins entre pays riches et pays pauvres pour s'assurer que la pandémie, justement, soit plus ou moins contrôlée?
Il faut que je vous corrige, COVAX n'est pas imaginé pour les pays pauvres. Le COVAX est imaginé pour tous les pays du monde, pour les pays développés et non développés. Donc l'idée, c'est que tous les pays ensemble essayent de partager les vaccins qui existent et qui sont produits de manière équitable. Donc c'est tout à fait normal que tous les pays qui ont signé à COVAX ont le droit à leur part des vaccins. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de pays ont fait des accords bilatéraux avec les producteurs, ce qui effectivement réduit le nombre de vaccins disponibles pour le COVAX. Ça aussi réduit notre possibilité de négocier les meilleurs prix. Et nous, on a vraiment refait l'appel à tous les pays de souscrire à ce mécanisme, parce que on peut pas vaincre cette pandémie en parent, mais il faut le faire ensemble.
OK, mais expliquez-moi ça, parce que là, merci de me corriger, parce que je croyais vraiment que le programme COVAX était destiné aux pays les plus pauvres de la planète pour qu'ils aient accès aux vaccins. Et là, pendant ce temps, on voit Israël qui a payé ses vaccins 40% plus cher et que 85% de la population de 70 ans et plus en Israël avait déjà reçu les deux doses du vaccin Pfizer. Alors, il y a une guerre à l'accès aux vaccins, là.
Voilà, effectivement. Donc, nous, on comprend très bien que chaque gouvernement a l'obligation, a le mandat de protéger sa population. Et on comprend tout à fait que les gouvernements veulent vacciner au plus vite les groupes les plus vulnérables, les travailleurs de santé, les personnes âgées, les personnes qui ont déjà des maladies chroniques, donc qui sont plus vulnérables. Mais ce qu'on dit, voilà, on comprend tout à fait cela, mais s'il reste des doses, il faut passer ces doses à COVAX pour que d'autres pays puissent faire pareil. Donc vacciner leur population vulnérable. Et dans un deuxième temps, on va aller vacciner les autres, surtout maintenant que la production n'est pas encore suffisante pour donner nécessairement nombre de vaccins. Mais on a vu donc les premières livraisons des vaccins à travers COVAX la semaine dernière. On espère que cela va continuer et qu'on aura des vaccins pour tous. Mais juste pour vous expliquer, donc il y a un nombre de pays qui ne vont pas payer les vaccins à travers COVAX. Donc il y a un nombre de pays qui vont payer les vaccins eux-mêmes et d'autres, donc les pays les moins développés, pour qui le mécanisme va assurer donc le financement des vaccins. L'idée, c'était que tous les pays participent.
OK. Mais est-ce que, là, je veux juste comprendre, est-ce que le Canada, par exemple, reçoit ces vaccins du programme COVAX de l'Organisation mondiale de la santé ou on les reçoit directement des compagnies pharmaceutiques?
Moi, je ne connais pas vraiment la situation du Canada. Donc, il y a des pays qui ont signé des accords bilatéraux avec les producteurs et ont déjà reçu des vaccins. Donc, okay. Je crois que la plupart des vaccins qui ont été administrés dans les pays développés, c'est des vaccins qui ont été donc achetés directement auprès des producteurs. COVAX a réellement commencé à distribuer des vaccins la semaine dernière, avec les premières livraisons qui sont parties pour Ghana et la Côte d'Ivoire.
OK. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup des vaccins de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, il y aura bientôt Novavax, qu'est-ce qui se passe avec le vaccin russe Sputnik V, le vaccin chinois Sinopharm et Sinovac? Est-ce que c'est du nationalisme vaccinal? Est-ce qu'ils gardent leur vaccin pour eux ou ils distribuent en parallèle à l'Organisation mondiale de la santé?
Moi, je peux parler pour l'OMS. Donc, nous, on a un système en place qui est de préqualifier et autoriser l'utilisation des vaccins une fois nos équipes ont vu les dossiers des producteurs. Une fois, on s'assure que les essais cliniques ont été faits de manière convenable et que le vaccin est sûr et efficace pour l'utilisation. Donc, on est en train de revoir, je crois, une quinzaine de dossiers en ce moment, dont les vaccins russes et chinois. On espère que ces examinations des dossiers seront positives. Et nous, on pourra donc, à ce moment-là, autoriser l'utilisation de ces vaccins. Et à ce moment-là, COVAX va faire la commande de ces vaccins auprès de ces producteurs. Pour le moment, l'OMS a autorisé donc l'usage de Pfizer et de AstraZeneca, et donc c'est ces vaccins-là qui sont distribués actuellement à travers COVAX. On espère qu'on aura d'autres qui vont arriver, qui vont être jugés sûrs et efficaces, et qu'on pourra donc avoir plus de vaccins dans le portfolio de COVAX, ce qui va nous rendre la tâche plus facile parce qu'on aura plus de vaccins à distribuer.
Mais là, vous me dites que les vaccins russes et chinois n'ont pas été approuvés par l'OMS.
Oui, ben effectivement. Donc, nous, on a approuvé Pfizer plus tard que beaucoup d'autres pays. Donc, il faut comprendre que les producteurs, malheureusement, au lieu de nous passer les dossiers à nous à revoir, ils préféraient au départ aller vers le gouvernement, aller vers les agences de régulation nationale, pour qu'ils puissent après donc conclure ces accords bilatéraux d'achat des vaccins.
Ouais.
Et donc, nous, on fait appel à des producteurs de venir vers l'OMS au même moment qu'il approche des régulateurs nationaux. Hmm.
En conclusion, êtes-vous optimiste, pessimiste? Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous, vous et vos collègues à l'OMS?
Ben écoutez, c'est la lutte contre le virus. On espère qu'à travers COVAX, on pourra distribuer un maximum de doses, 2 milliards, qui est en fait un chiffre qu'on aimerait distribuer cette année, et qu'on aura donc les groupes vulnérables dans chaque pays vaccinés au plus vite possible, ce qui va nous ramener donc à une situation où il y aura moins d'hospitalisation, moins de décès, même si le virus va continuer à circuler, peut-être parmi les jeunes qui seront pas vaccinés tout de suite, mais qui, ce qu'on a vu, ne vont pas devoir aller à l'hôpital. Donc, on essaie qu'on va vraiment un peu réduire toutes ces psychoses dues à COVID, et que dans un deuxième temps, on va vacciner les autres. Et après, oui, le virus restera sans doute, mais s'il circule comme d'autres virus où on a une immunité qui est établie avec la vaccination, c'est quelque chose qui serait envisageable.
Donc, on peut contrôler grâce à la vaccination. 2 milliards de doses d'ici la fin 2021, M. Yassarevic?
Oui, donc effectivement, l'idée, c'est à distribuer à travers COVAX 2 milliards de doses à travers le monde. Et donc, voilà, ça couvrirait à peu près donc 20% peut-être, parce qu'il y a des doses qu'on doit recevoir à deux reprises. Ouais. Donc ça couvrirait une partie de la planète, ce qui nous ramenait à une situation où on pourrait peut-être envisager le retour à une vie plus normale.
Avez-vous reçu le vaccin de Johnson & Johnson qui nécessite seulement une dose?
Donc, ce vaccin est aussi en ce moment revu par nos équipes, et donc on espère que ça sera aussi un vaccin de plus. Et évidemment, si les vaccins doivent être administrés une seule fois, si les vaccins ne nécessitent pas des conditions logistiquement des fois difficiles, alors c'est un atout pour tous.
Bon, très bien. Tariq Yassarevic, porte-parole de l'OMS. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez
Dutrisac,
Cube Radio.
Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille sont avec nous pour parler de politics. Bonjour à vous deux.
Oui, bonjour.
Alors, commençons donc avec le fédéral aujourd'hui.
Oh, je suis dérangée, là.
Parce qu'il y a M. Trudeau qui a pris la parole ce matin, là, puis il y avait des choses à dire.
Ben oui, il y avait des choses à dire. Il était à l'heure, alors je peux avoir un rapport qui a plus d'allure. oui, en fait, il a parlé d'une annonce, pardon, j'étais tellement mêlée, j'étais sûre que c'était Antoine. Il a fait une annonce de 518 millions de dollars, messieurs, en investissement pour la recherche. Il a fait une petite jambette en disant que c'était fini le temps où on n'investissait plus en recherche et au niveau de la science. C'est fini le temps de l'ancien gouvernement. Donc,
5 ans plus tard, quand même. Il a été élu en 2015, bon, puis a attendu 2015, 6 ans pour se réveiller.
Et ça a pris une pandémie, il faut croire.
Ouais, ouais.
Je pense qu'on ne pourra plus faire les choses comme on le faisait avant. Donc, quand même, 518 millions. Il a aussi annoncé qu'il maintenait la subvention salariale, la subvention loyer commercial et l'indemnité due au confinement. Donc, ça sera maintenu jusqu'en juin avec les mêmes montants. Donc, Mme Freeland, qui l'accompagnait, travaille sur le budget qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, voilà, c'était l'essentiel de ces messages.
On veut-tu voir ça, le budget?
Bien sûr qu'on veut voir ça quand même. Il y a un petit peu de nous autres, ça va coûter cher. Et mais ouais. on veut voir où seront les objectifs, où seront les dépenses, quelle sera la vision de Justin Trudeau et jusqu'où il ira, parce que il n'arrête pas de parler qu'il veut pas d'élection, mais en même temps, il y a comme une ambiance actuellement au Parlement, pas là parce qu'il siège pas cette semaine, mais la semaine dernière où on sentait que quand même Justin Trudeau a l'air à blâmer beaucoup l'opposition. Or, honnêtement, l'opposition fait pas grand-chose. Là. Donc, voilà, fait que le budget devrait venir, mais c'est essentiellement le sens de ces annonces.
Il y a des doses aussi qui s'en viennent. Il parlait de 1 800 000 doses.
Oui, mais j'ai de la misère à tenir un registre. Là. 1 million par-ci, 500 000 par-là, ça dépend lequel. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a comparé aussi, parce que la question a été posée à Justin Trudeau par rapport au fait que ça vaccinait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus intensément aux États-Unis. Et il a dit que, bon, ça avait affecté beaucoup plus les Américains, la COVID, que le Canada. Alors, c'était normal qu'il vaccinait plus, riez pas. Donc, il était confiant que peut-être on serait vacciné avant septembre, tous ceux qui le voulait, parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup, beaucoup de doses. Et il est confiant aussi que le vaccin Johnson & Johnson, qui, lui, nécessite qu'une seule dose, devrait être approuvé très, très, très bientôt. Peut-être que ça pourrait être la bonne nouvelle de vendredi.
Mais il n'y a pas de certitude, là. C'est tout au conditionnel.
Ben oui, mais c'est ça depuis le début de la pandémie, pauvre toi.
Pauvre moi. OK.
Excuse-moi.
Il
attend Santé Canada là, pour Johnson. Johnson, c'est pas du ressort de Justin. Là.
Ben non, mais il peut savoir à Santé Canada, ça va-tu prendre 3 semaines ou 3 mois ou
trois
ans?
Non, c'est une question de jour.
Bon.
Est-ce que c'est plus précis pour vous?
Ben, une question de jour, déjà, ça peut être 30 jours, peut être 100 jours, peut être 20 jours, peut être 2 jours. On ne sait pas plus.
Mais on ne peut pas mettre de pression sur Santé Canada quand même.
Ah non. Mais qu'ils répondent que ça va plus vite aux États-Unis parce qu'ils ont été plus
affectés. Oui, j'ai trouvé ça sympathique.
Je vois pas Antoine, éclaire-nous là, la logique de ça.
J'en ai pas. J'ai pas
parfait.
Okay.
OK, c'est bon. c'est clair de même. Du côté du Québec, là, il y a la chasse aux femmes qui est ouverte et il y en a deux autres qui ont été assassinées. Je rappelle, à coups de hache, parce que c'est horrible et c'est disgracieux. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Pendant ce temps-là, la ministre Charest de la Condition féminine n'a pas l'air à savoir comment réagir.
Bien, il y a des propositions qui viennent là, de Québec solidaire. On s'étonne pas de Québec solidaire, qui a toujours une grande sensibilité pour ces questions-là. La porte-parole en matière de conditions féminines, là, Christine Labrie, a publié un communiqué il y a quelques minutes. Donc, un communiqué, je dirais, senti. 5 féminicides, donc, en un mois. Il faut réagir. Donc, elle sonne l'alarme. Elle déplore que les solutions sont plutôt connues pour réduire les violences faites aux femmes, mais on manque toujours de fonds pour les mettre en œuvre. Chaque année, plus de 10 000 femmes ne trouvent pas de place immédiate dans les maisons d'hébergement, souligne-t-elle. Et elle estime que la CAQ a toujours un coup de retard. C'est un peu ce que tu dis à propos de la ministre Charest. Les sommes annoncées l'année dernière pour les organismes qui œuvrent auprès des victimes, écrit Mme Labrie, arrivent à peine à éviter les ruptures de services. Donc, c'est un peu comme tu disais ce matin, Benoît, c'est même pas pour, comment dire,
engager,
faire en sorte qu'il y ait plus de services, mais pour qu'il y en ait tout court.
C'est ça.
Donc, la violence faite aux femmes, il faut que ça soit une priorité incontournable lors du prochain budget. Puis elle propose 3 choses. Elle met en évidence là, qu'il faut augmenter rapidement le nombre de places disponibles dans les ressources d'hébergement dans toutes les régions du Québec, financer le développement de logements abordables pour aider les victimes à se reconstruire dans un environnement sécuritaire, puis ensuite mettre sur pied une ligne québécoise, moi je dis québécoise parce que dans leur mot dit communiqué c'était écrit provincial, mais en tout cas, ligne québécoise de référence pour les auteurs de violences, comme l'a recommandé le rapport Rebâtir la confiance, le fameux rapport là, sur cette question-là qui a déjà été publié, parce que c'est 5 féminicides cette année, mais
c'est pas
les premiers.
Mais non. Et c'est drôle parce qu'on a appelé le bureau de Dominique Andelade et celui de Paul Saint-Pierre Plamondon. On a arrêté là parce que les deux sont en relâche. Fait qu'il trouvait pas ça assez important de sortir sur la question des, ouais, de ces meurtres de femmes-là. Il me semble que tu pognes le téléphone, tu dis OK, je vais être là.
Ben, les élus ont quand même le droit à une certaine vie de famille. Là.
Tu sais, non, mais là, il y a urgence. Enfants, non, je comprends, mais c'est au téléphone, puis c'est 5 minutes. Tu sais, à un moment donné, si tu sais ce qui est, ouais, important dans la vie, ça, c'est une question qui est importante. Puis pendant ce temps-là, ben, Mme Charest, elle avait les demandes des maisons d'hébergement pour les femmes qui vivent la violence conjugale, puis elle a répondu au quart des demandes. Au quart.
Mmh. Oui, ça, je comprends, mais ça, je ne blâmerais pas les élus de ne pas donner d'entrevue là, pour,
ben,
eux autres.
C'est
quoi?
C'est quoi?
Je pense qu'ils peuvent décrocher. Non, je pense qu'ils peuvent décrocher.
Ben, moi, je pense que c'est urgent là, surtout, de réagir.
Oui,
il y a urgence. Ouais,
mais ils ont réagi déjà avec des communiqués, là, les deux. Anglade l'a dit, il faut qu'on s'occupe davantage des femmes, tout ça. Mais en tout cas, moi, je leur donnerais comme la possibilité de passer du temps avec leurs enfants. Déjà qu'ils couchent quasiment au bureau, là, ce monde-là.
T'es vraiment une bonne personne.
Je sais, mais... parce que je les côtoie peut-être plus que toi.
Ah, peut-être. Mais moi, je regarde le résultat final.
C'est
tout ce que, tout ce que je vois, c'est
5 heures à ce monde-là pour lire leurs journaux. Je sais parce qu'ils réagissent. C'est la première chose que je fais, souvent en me levant, je reçois des courriels d'élus pas contents.
mais c'est parce que si on a le temps de réagir.
Je me lève tôt.
Mais si on a le temps de réagir. Je ne sais pas, je trouve que c'est une... Là, c'est on est rendu à un tournant, là. C'est parce que ça fait 20 ans qu'on parle de ça, 30 ans, ouais, qu'on parle de ça. Puis là, il n'y a, ouais, pas un gouvernement qui a agi comme du monde jusqu'à maintenant. Puis c'est quand même des vies humaines, là. C'est des femmes, ouais, là, qui se font tuer. Puis là, c'est comme là, toi, tu me dis, bien, c'est à relâche, fait qu'on met ça, sur le back burner. Bien, moi, je suis pas d'accord. Pogne le téléphone, dis, on va s'en occuper, on veut que le gouvernement bouge. Là, si c'est trop demandé, c'est quoi, ça vaut quoi?
On est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord.
Ben, c'est ça. Puis, M. Kingsbury qui implore le premier ministre d'agir.
Oui, c'est intéressant, ça. Hey, écoute, là, on est dans le suspense de la conférence de presse de 17 heures. Bon, les dernières rumeurs, là, c'est qu'on tomberait tous en orange. C'est Claudie Côté à TVA qui a su ça. Sauf le 514 et le 450. Donc... parce qu'on sait que c'est là que le feu brûle, pour reprendre les propos de Christian Dubé.
Ouais.
Et il y a les requins. Hey, je t'ai dit qu'Arruda, qu'on a beaucoup critiqué, il était vraiment... Je trouve que c'était le retour du Arruda très imagé et une image qui a frappé quand même hier. Tu sais, une mer calme, mais les requins rôdent. Et les requins, ce sont les variants. Mais là, c'est le champion de ski acrobatique, Michael Kingsbury, qui est au Kazakhstan parce qu'il y a une compétition là-bas. Lui, il a écrit au premier ministre, il dit « Écoutez, je me suis arrêté cette semaine là, à me demander ce que je ferais là, si j'étais un jeune privé de sport pendant un an. » Il dit « J'ai eu le vertige. Hein, j'aurais pas été capable de survivre à une année complète privée de ma passion. » Et il dit « Il faut vraiment... » là. Et il appuie aussi vraiment l'initiative du jeune Isaac Pépin, qui est un élève de 5e secondaire du football, qui joue au football au séminaire Saint-François dans la région de Québec. Donc, il dit « Lorsque je remporte une médaille, M. Legault, vous êtes le premier à me féliciter sur les réseaux sociaux. Là, il faudrait que ça revienne le sport organisé. » Puis
donc,
je comprends.
Excuse-moi, là, mais c'est bien sans dessin, ça. On, ouais, est en pleine pandémie. Penses-tu que c'est Legault qui décide de fermer la shop? C'est quoi,
ben,
c'est quoi ça?
Oui.
C'est plaignard-là?
Oui, on a vu les avis, Benoît, puis on a vu que ça différait de,
absolument,
des décisions.
Mais
donc, il y a une marge de manœuvre,
là,
une latitude politique.
Mais là, vous voulez quoi? Là? Vous voulez que tout le monde retourne, qu'on retrouve la vie normale, puis qu'on fasse semblant qu'il n'y a pas de coronavirus qui circule?
Je comprends ce que tu veux dire, puis les requins rôdent, tout ça, mais peut-être que pour le sport organisé, on pourrait faire comme une exception. On en a fait une pour les religions.
Caroline.
Ils peuvent se réunir à 10.
Ben oui. Puis surtout, ça dépend aussi des régions. Là. Peut-être que au niveau de Montréal, au niveau où il y a le feu, peut-être qu'il faudrait se poser la question. Mais je veux dire, il y a des régions qu'il y a presque plus de cas. Est-ce qu'on prive la majorité du Québec pour une région? Je veux dire, poser la question, c'est un peu y répondre. C'est pas de se mettre la tête dans le sable. C'est pas de dire qu'il n'y a pas de pandémie, mais c'est de dire qu'on en a encore pour un bout. Est-ce que la troisième vague va finir par être au niveau psychologique? Moi, je suis sensible à ça, là, que le fait que les jeunes disent on s'ennuie du sport. Est-ce qu'on ouvre les vannes? Peut-être pas à 100%.
Dans quelle
mais...
région?
Ben, ça dépend de la région. Je veux dire, tu sais, si on demande de l'ouverture pour du cinéma pendant une relâche, je veux dire, c'est là, ça devient plus scientifique, ça devient de la sensibilité à certaines revendications, à certains besoins.
C'est pas comparable. Tu vas t'asseoir devant un film, c'est pas comme jouer au basketball ou jouer avec, tu sais, un contact avec d'autres joueurs, là. De souffler d'en face parce que t'es en train de courir.
Oui, il y a peut-être moyen d'émettre des règles. Tu sais, on peut aller dans les magasins, mais il y a toutes sortes de règles. Il y a des limites. Et je pense que la grande majorité des gens les respectent, ces règles-là. Donc, on pourrait peut-être en faire de même pour le sport
hockey,
organisé. Surtout si c'est organisé, ça veut dire qu'il y a des adultes qui sont là qui peuvent insister sur le respect des règles.
Et les règles seraient quoi de patiner dans le sens de la patinoire puis de chacun son dans sa comment tu veux jouer au hockey sans qu'il y ait de contact?
Tu peux dire sans contact peut-être.
Non mais tu vas chercher la rondelle là, tu te frottes sur l'autre.
Bon ben là toi t'es peut-être le genre à te frotter.
Ben moi j'en profite. Ouais, ok c'est... ça suffit. Ok allez vous en chez vous, on se reparle demain. Merci à Caroline, merci à toi.
À demain. Bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici. Ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Loïc Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère et américaine. Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour, Benoît. Il y en a des nouvelles aujourd'hui.
Oui, bien, c'est ça. On va y aller d'abord en Birmanie.
Oui, je t'emmène d'abord en Birmanie parce que ça, c'est très agité toujours là-bas. On sait qu'il y a eu un coup d'État, que les militaires donc ont mis en prison les gens qui étaient nouvellement élus en disant, en prétextant qu'il y avait eu de la fraude électorale. Mais alors, les gens n'en finissent pas de descendre dans les rues. Il y a eu aujourd'hui 11 morts et de nombreux blessés parce que la police et l'armée ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Les journalistes aussi sont particulièrement visés. Les étudiants semblent être au cœur de toutes les manifestations, parce qu'il y en a plusieurs dans toutes les villes du pays. Et donc, ils dressent un peu partout dans les villes des fils de barbelés. Et détail intéressant, ils mettent sur le sol des photos du général qui est à la tête du coup d'État, M. Min Aung Hlaing. Et les policiers et les soldats font, paraît-il, des pirouettes pour pas marcher sur la face du général.
Alors, c'est vrai.
Oui, il y a vraiment une... C'est un pays qui est très superstitieux aussi, mais il est très autoritaire et ils veulent pas se faire mettre en prison ou faire accuser de quoi que ce soit. Tu vois la terreur qu'il y a dans les rangs de l'armée et de la police, en fait, à travers ça. Et donc, ça les ralentit un petit peu, mais ça va pas bien du tout. Les pays voisins, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour, demandent que l'opposante Aung San Suu Kyi soit relâchée. Les entreprises étrangères pourraient suspendre leurs activités dans le pays, mais la Chine et la Russie bloquent toujours les sanctions internationales au Conseil de sécurité. C'est là qu'on en est en ce moment. Ça chauffe vraiment beaucoup là-bas. C'est une partie de bras de fer qui est engagée. Et il y a un peu moins de manifestants qu'avant, mais il y en a toujours des manifestants, même si la police tire sur les gens. Donc, je sais pas ce qui va arriver. C'est toujours à suivre.
Bon, et en France, on redécouvre la religion.
Ça, c'est assez catastrophique pour la laïcité. En France, chez les jeunes, c'est un sondage IFLOP, donc c'est quelque chose qui est sérieux, qui a été fait, et qui a sondé, donc IFLOP, qui a sondé des lycéens. Donc, des gens qui correspondent à peu près, grosso modo, à l'âge du secondaire, quoi, ici. Alors, on découvre une forte présence d'une idéologie anti-intellectuelle musulmane et fondamentaliste religieuse parmi les élèves, et aussi une très forte influence du fondamentalisme américain, religieux américain. Je te donne les chiffres. Plus de 50% des élèves sont favorables au port de signes religieux ostensibles en tout temps et partout. c'est 25 % dans la population française en général. Alors, tu en as 90 % chez les élèves musulmans, et les élèves musulmans sont 14 % hein, de tous les élèves, donc parmi les lycéens. Chez les catholiques, 50 % chez les gens qui se disent sans religion, c'est à 40 % même chose, le droit de blasphème. Tu sais, c'est le droit de blasphème, c'est très important, ça fait partie de la liberté d'expression, parce que sinon, tout devient du blasphème, tu peux pas énoncer la moindre critique contre le moindre leader religieux parce que tu te fais traiter de blasphémateur. Donc c'est très très important d'avoir le droit au blasphème. Eh bien, ils sont contre. Ils sont contre à 52% au droit au blasphème. Et évidemment, chez les musulmans, c'est très élevé, c'est à 78%. Mais chez les catholiques, c'est à 45%. Et chez ceux qui se disent sans religion, c'est à 47%. Incroyable. Et encore une fois, c'est le double des chiffres qu'on retrouve dans la société française en général. Alors, les gens s'arrachent les choses, ils disent, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et on avance ici et là des débuts d'explications, on dit, bah, peut-être que c'est parce que les religions sont toutes traitées sur un pied d'égalité, puis qu'elles deviennent légitimes. Peut-être que les religions sont perçues comme quelque chose qui est fondamental à l'identité individuelle, c'est qu'on voit pas le carcan idéologique qu'elles imposent, puis c'est un problème. Mais il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les facultés de l'éducation et qui disent, il y a peut-être une catastrophe qui se produit là, parce que ça vient des États-Unis, ça traverse à travers le monde, tu sais, ces philosophies d'éducation. Et en fait, on dit, oui, mais c'est peut-être parce qu'on n'enseigne plus à critiquer les religions. Et entre autres choses, on n'enseigne plus ce qui se passait dans l'Antiquité. Tu sais, il y avait une religion, il y avait Zeus ou qui était là, puis c'est une religion morte. On n'enseigne plus cette religion-là. Mmh. On n'enseigne plus ce qui se passait. Donc, les gens n'ont pas de point de comparaison. Ils ne peuvent pas regarder de manière détachée ce que fait une religion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se produit ici qui est intéressant. Mais en tout cas, c'est très dangereux pour l'esprit critique et c'est très dangereux pour les sciences humaines en général. Ouais.
Et la liberté académique et la liberté d'expression. Ah, non, ce n'est pas des farces, là.
C'est pas drôle du tout, ce sondage-là. Ouais. Et je te parie que si on faisait un sondage ici, ça se pourrait qu'on trouve des résultats similaires.
Ça se peut bien. Oui, ouais. C'est ça. On pourrait stepper, comme on dit. Il y a la colère dans la population libanaise.
Oui, oui, la livre libanaise a chuté énormément face au dollar américain. Les bureaux de change, tellement chuté que les bureaux de change ont fermé à plusieurs endroits dans le pays. Alors, les gens ont commencé à ériger des barrages routiers parce qu'ils sont désespérés. Ça fait 6 mois que les partis politiques sont incapables de former un gouvernement. Et puis, on sait que ça vient beaucoup du Hezbollah qui est contrôlé par l'Iran, qui bloque la formation de ce gouvernement. Donc, le Hezbollah porte une grande part de responsabilité. Mais l'armée et la police n'ont pas démantelé les barrages. Ils se sont contentés de regarder ce qui se passait, puis d'observer la situation, et c'est tout. Et ça te montre, ça, que le ras-le-bol des Libanais envers leurs dirigeants devient vraiment extrêmement grave. C'est possible que l'armée et la police commencent à chercher à désobéir. Mais eux-mêmes ont de la famille dans la population, eux-mêmes souffrent des problèmes. Encore une fois, on regarde le Liban se désagréger. C'est un pays qui est en train de se désagréger sous nos yeux. Mmh. Et c'est regrettable.
Bon, des nouvelles de la Hongrie, toi?
Et oui, on n'en parle pas souvent. Il y a ce sympathique Viktor Orban qui est à la tête de la Hongrie, qui est extrêmement à droite, qui a des politiques anti-immigration, anti-avortement très très fortes, anti-médias aussi, parce qu'il veut contrôler les médias. Mmh. Alors, en Europe, on a dit c'est assez. Le parti, le PPE, qui est le Parti Populaire Européen, dont son parti fait partie, si tu veux, à l'échelle européenne, a voté de nouveaux règlements pour expulser des groupes comme le groupe hongrois, le groupe de députés hongrois qui appartient donc au parti de M. Orban. Et là-dessus, M. Orban a décidé de claquer la porte et de quitter lui-même le Parti Populaire Européen avant qu'il d'être expulsé avec ses députés en disant que les positions sont antidémocratiques, etc. Sauf que celui qui est antidémocratique là-dedans, c'est Orban, qui vraiment est un gars qui ressemble beaucoup à Trump à certains égards. Tu sais, on sent bien qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'il devienne un dictateur. Alors, on voit ici encore la fragilité de toute l'Union européenne et on se demande même si ce n'est pas le début de la sortie de la Hongrie de l'Union européenne qui est en train de se produire avec M. Orban.
Bon, et comme Dracula, l'État islamique ressuscite.
Oui, il ressuscite, ça fait plusieurs fois, mais c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens qui pensent que le problème est réglé et qu'il n'est plus là. Non. Très présent en Afghanistan, l'État islamique, il vient de frapper, il vient de tuer trois femmes journalistes, précisément parce que ce sont des femmes et des journalistes. Et pour l'État islamique, les femmes ne peuvent pas employer, ne peuvent pas travailler, surtout dans, pour certains emplois, elles ne peuvent pas être journalistes.
Tous ces concepts-là là, de blasphème là, puis de contrôle religieux des hommes sur les femmes, ça nous amène là.
Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut critiquer les religions. Et c'est pour ça que le droit au blasphème doit exister. Parce que tu peux pas blasphémer, tu ne peux pas, surtout pas blasphémer sous l'État islamique.
Blasphémer, c'est critiquer. Blasphémer, tu sais, c'est quoi blasphémer, là? Ça dépend de la définition de celui qui est offusqué, voyons donc.
D'abord, je pense qu'on a le droit d'insulter dans notre société, d'accord? C'est malheureux, mais c'est pas très adroit d'insulter. Mais parfois, une insulte, ça vaut la peine de la sortir. Deuxièmement, je pense qu'il faut toujours critiquer les dirigeants, et les dirigeants religieux méritent particulièrement d'être critiqués quand ils imposent des chapes de plomb à leurs ouailles. C'est pas vrai que les êtres humains n'ont pas le droit d'être libres. C'est pas vrai qu'on doit emprisonner les êtres humains dans des systèmes de croyances qui sont absolument faux et qui les rendent très malheureux. Alors oui, il faut critiquer ça. Et si on le fait pas, Benoît, un jour, toi et moi, on ne pourra plus parler parce qu'ils auront gagné. Il faut absolument le dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et il ne faut pas être gêné de le faire. Il ne faut pas être gentil. Puis dire, bon, ils vont comprendre. Non. Il faut leur dire.
On a parlé, ça, du droit de blasphémer au Québec, là. Ça tombe pas du ciel, hein? Sous Philippe Couillard, c'était à l'agenda, là. On en parlait, là.
Oui.
Faut pas l'oublier.
Et il y a toujours une loi qui existe au fédéral qui interdit en théorie le blasphème. Elle n'a pas été utilisée, je pense, depuis 1929 ou 32, quelque chose du genre. Mais elle est toujours là, cette foutue loi-là. Une loi imbécile. Une loi imbécile. Je viens d'employer un terme injurieux. Mais oui, c'est une loi imbécile. Et ceux qui votent en faveur de cette loi sont des imbéciles par rapport à la liberté d'expression. Ils comprennent pas ce que c'est la liberté d'expression. Mais tu vois, c'est ça. C'est d'avoir le droit de parler sans se restreindre, sans se dire « Est-ce que j'ai le droit de dire ça, mon Dieu? » Puis là, on s'auto-censure et ça devient pire que tout.
Ça veut pas dire que c'est le droit de la diffamation non plus.
Non, je suis contre la diffamation. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux dire... mais remarque, t'as ça à l'Assemblée nationale. Écoute, regarde cette liste stupide de mots qui sont non parlementaires. Voyons donc, on se croirait en maternelle, tu sais. Voyons, donc le mot girouette est même pas interdit. C'est le pauvre Mario Dumont, tu sais, écoute, c'est ridicule, ces histoires-là.
Avant qu'on se quitte, Loïc, Twitter.
Oui, ça va dans la même veine, qui va bannir les utilisateurs qui donnent de fausses informations sur les vaccins de manière répétée. La compagnie va laisser 5 chances aux utilisateurs fautifs, et ça va du simple avertissement à une suspension de plus en plus longue, de 7 jours à la 5e infraction, et puis ensuite de manière indéfinie. Il y a déjà 8400 tweets qui ont été retirés, et plus de 11 millions de comptes qui ont été retirés. Donc, ça pose la question de la censure, ça aussi. De quel droit est-ce que Twitter fait ça? Qui sont les juges qui ont ordonné ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de partie adverse qui a dit, écoutez, monsieur le juge, non, c'est parce que, voyez-vous, c'est ma liberté d'expression, c'est ce que je crois pour telle et telle raison. Non, c'est Twitter qui l'enlève. Mais... Je suis pour les vaccins. Mais c'est encore une question de liberté d'expression ici. Ouais. C'est une tendance extrêmement dangereuse, même si c'est pour une bonne cause. Parce que si tu commences à faire ça pour des vaccins, tu vas le faire pour quoi ensuite? Ouais.
Et un des propriétaires de Twitter, c'est pas un Saoudien?
Je sais pas.
Ben oui, tu iras voir ça. On s'en parle demain. Loïc Tassé, merci.
Explique des choses.
Salut.
Salut Benoît.
À demain.
Jean-Charles Lajoie.
Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
Jean-Charles Lajoie.
Bon, Jean-Charles, le Canadien a gagné hier contre les Sénateurs. Quand ils perdent, c'est pas grave. Quand ils gagnent, c'est une éclatante victoire. On n'est pas un peu coloré dans notre analyse de tout ça?
Mais là, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Mais t'as pogné ça où, toi, que c'était une éclatante victoire? Qui a écrit ça?
Non, c'est le sentiment que j'ai. Là. Je lisais le Journal de Montréal aujourd'hui, première page. Le Canadien gagne. Ouais, mais il gagne contre les Sénateurs. C'est pas un exploit, là.
Attends une minute. Là. On va toujours bien pas dire le Canadien perd. Il a gagné.
Ouais, mais c'est pas... extraordinaire. C'est contre les sénateurs. Sénateurs sur lesquels tout le monde se, se moquait des sénateurs il n'y a pas longtemps.
Mais ton temps de verbe est extraordinaire. C'est la clé de ton argumentaire. C'est le temps de verbe. Tout le monde se moquait. Personne ne se moque désormais des sénateurs. Ils avaient 4 victoires dans les 5 derniers matchs. Ils étaient devenus durs à jouer contre parce qu'ils avaient une confiance renouvelée. Ils se croyaient invincibles.
Ouais.
Et hier encore, c'est ce genre d'équipe que le Canadien a eu d'en face, là. C'est un club qui a été dur à affronter pour le Canadien hier, mais le Canadien a été, malgré tout, la meilleure équipe sur la glace, comme il l'a été à Winnipeg, Benoît, samedi. Et cette fois-ci, ça a payé. Pourquoi? Parce que le gardien, notamment, a fait les arrêts hier, ce qui n'était pas toujours le cas récemment. Et puis les sénateurs étaient sur un deuxième match en 2 soirs. Là, ça, il faut le dire.
C'est ça, hein? Ouais.
Tu comprends? Alors,
OK, explique-moi une chose, Jean-Charles. Qu'est-ce que tu as vu en termes d'amélioration depuis l'arrivée de Dominique Ducharme derrière le banc du Canadien?
Une équipe plus affamée, plus désireuse de garder possession de la rondelle. Autrement dit, le Canadien était rendu tellement magané, Benoît, que dès que la rondelle touchait la palette d'un de leurs joueurs, quand elle quittait la palette du même joueur, c'était pour se retrouver dans une pire posture qu'elle ne l'était au moment où le joueur a pris possession de la rondelle. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on a recommencé à bien faire les placements de rondelles. C'est pas niaiseux ce que je te dis là, c'est un petit détail qui vaut son pesant
d'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ce placement de rondelle?
Quand un joueur prend la rondelle, quand il s'en débarrasse pour faire une passe ou prendre un tir, la rondelle se retrouve en meilleur état qu'elle ne l'était quand il l'a reçue. Et quand tu réussis ça, Benoît, ça veut dire que tu te rapproches de gagner des matchs de hockey. Tu te rapproches de créer des meilleures chances de marquer. Tu te rapproches de dominer dans la colonne des tirs au but, des chances de marquer et des buts, et donc dans la colonne des victoires. C'est exactement ce que le Canadien est en train de faire. Et j'attire ton attention sur le travail entre les deux lignes bleues. Je suis fatigué avec ça. Je reviens avec ça. C'est là où tu es le plus loin. L'un et l'autre des clubs, un soir donné, sont le plus loin de l'un et l'autre des buts. Et c'est là où le match se gagne, où il se perd. Parce que c'est là où tu brises des jeux quand tu es engagé. Quand tes pieds bougent, ton bâton est dans les jambes de l'adversaire, tu vas intercepter une rondelle en transition, tu vas contrer un porteur du disque en gagnant une bataille à 1 contre 1, et tu vas te relancer en attaque en possession de la rondelle. À défaut de quoi, quand c'est toi qui es en sortie de territoire, si tu parviens avec un jeu efficace et un personnel en mouvement et que tu travailles bien en unité de 5, entre les deux lignes bleues, tu vas toujours trouver une ressource pour entrer en possession de la rondelle avec force dans le territoire adverse. C'est ce que le Canadien ne faisait plus. Résout plus souvent qu'autrement à rejeter le disque derrière les défenseurs adverses. Et pas foutu d'aller le récupérer avant le défenseur. Autrement dit, tu donnes bêtement la rondelle à l'adversaire. C'est ce que traditionnellement on faisait au Canada. Puis là, les Russes sont arrivés en 72 pour la série du siècle. Et eux, ils avançaient à reculons. Ils avançaient et tu voyais dans un plan de caméra, tu voyais les 5 Russes. C'est quoi ça? On n'est pas habitué. D'habitude, on voit 2-3 gars dans un plan de caméra. Non, on en voit 5. Pourquoi? Ils travaillent en unité de 5 avec des passes à revers, des passes vers l'arrière, puis ils entrent. Les Russes, là, ils regardaient le Canada jouer, puis ils disaient, mais ils sont fous. Ils passent la ligne rouge, puis ils envoient la rondelle dans le fond de notre territoire. Autrement dit, ils nous donnent la puck. Ils sont bien caves. C'est ça que tu ne dois plus faire, tu comprends?
Ben, il était temps.
Tu peux garder une possession de la rondelle.
Après 50 ans, on a compris.
Ben, à peu près, oui. Non, mais ça fait longtemps que ça se pratique. C'est mis à jour en Amérique, là.
Et
Dominique Ducharme a redonné ce lustre. Une équipe de possession de rondelles avec des joueurs qui, parce que le discours a changé, parce que Ducharme a une approche très personnalisée avec chacun de ses joueurs, hein, le discours unique aux 20 PME plutôt qu'un... Le discours personnalisé aux 20 PME plutôt qu'un discours unique pour les 20 gars, ce qui fait que t'en perds la moitié dès que tu sors une phrase, parce que il y a un gars sur deux à qui tu parles qui comprend pas ce que tu dis et qui en a rien à serrer. Alors que quand tu as un discours adapté à chacun des individus, ben là, chacun des individus se sent concerné. Tu as vu le match qu'a joué Kotkaniemi hier? Les gens disent, j'aurais aimé qu'il joue plus. Et ça va venir. Il a joué 12 minutes 50 d'excellente qualité hier.
OK, parle-moi.
Il a joué un bon match.
Hier matin,
Charles m'a passé 2 minutes avec, les deux riaient de bon cœur. Ça a fini avec une petite tape, c'est fofoune. Kapkaniemi a souri toute la game hier, puis il en a sorti une capable.
OK, donc il leur travaille dans la tête. Hier, là, j'ai vu Drouin se faire ramasser par en arrière, sans pénalité, encore une fois, mais c'est ici. C'était vraiment violent, là. Y a-tu quelqu'un?
Ah, Watson.
Oui, Watson.
Watson ne tourne pas ses deux bars. C'est non. Un cabochon.
Ouais.
Un goon, un redresseur de tort. Une espèce en voie d'extinction dans la Ligue nationale. Lui, il arrive de nulle part. Drouin se débarrasse de la rondelle et 1,2 secondes après, alors qu'il lui fait dos, il ramasse avec tout son poids et tout son élan.
Et son,
Drouin, on le voit, le choc est à la tête sur la glace. Hein? Ouais. On le voit dans l'angle inversé. Non?
Ouais.
C'est la tête et les gants, les avant-bras qui donnent durement contre la glace. Il a été secoué là-dessus, mais l'effet whiplash, c'est une collision de char.
Donc ouais.
Autrement dit, Drouin est arrêté au feu rouge, puis un zouave, il rentre dans le cul.
Mais Jean-Charles, personne n'est allé voir Watson après ça.
Ben non, mais c'est ça. Ça, je trouve ça intéressant. Chez Weber, là, dont on dit qu'il fait peur aux laitiers quand il cogne à la porte, là, juste à le regarder, là. Mais est-ce que Shea Weber peut donner du Sherwood et faire son travail de capitaine quand il arrive en affaire de même? Y a-tu moyen de... Il va falloir recommencer à y penser dans des matchs où les rivalités sont intrinsèques. C'est tellement un bon point que tu amènes là. Tu sais, on a envoyé Nicolas Deslauriers aux ordures, littéralement.
Ben oui.
Puis là, ben, il ramasse des points avec les Ducks d'Anaheim.
Ben oui, j'ai vu ça.
Il a payé de sa vie pour le Canadien. C'est un petit gars d'ici.
Ouais.
Il était très fier de porter l'uniforme.
Ouais.
Et lui, il n'y a personne qui ne s'est battu plus que Nicolas Deslauriers depuis 2 ans dans la Ligue nationale. Et lui, s'il avait été en uniforme hier, et probablement qu'il l'aurait été parce qu'en voyant l'alignement des Sénateurs, Dominique Ducharme l'aurait habillé.
Il allait le geler.
Lui, il allait payer une visite à Watson en disant « Hey, viens ici, Zazu, là. » Ça te frotte les oreilles, moi.
Ben ouais, j'ai vu ça, Deslauriers, qui a le plus grand nombre de combats dans la Ligue nationale en 2020.
Ouais.
Sacramouille, c'est pas grand. Puis on s'est débarrassé de ça.
On l'avait dans notre cours.
Je sais.
Qu'est-ce que tu veux? Claude Julien ne l'aimait pas.
Bon.
On l'a laissé partir, puis c'est ça qui est ça.
Hey, on s'arrête là. On s'arrête là.
Non, que Stéphane White a perdu sa job.
Oui, j'ai vu ça. Oui, mais on va s'en.
C'est quand même ça, nouvelle 1.
Oui, mais c'est ça qu'on va regarder. À 17h à TVA Sport avec Jean-Charles Lajoie et toute son équipe. Merci Jean-Charles. On se reparle demain.
Okay, d'abord. Salut.
Il est toujours de mauvaise humeur. On se reparle demain à 10h30.
Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h30, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio.
Cube Radio.